Plus vite, plus vite.
Salut, salut. Ah. Allô.
Moi, salope, merci, tu as un programme pour enfants.
Allô, allô.
Bon, alors là, tu es présente, oui ou merde?
Mais oui, je suis présente. Comment allez-vous?
Eh, muy bien. La miniteca del miedo, el vacío de ultratumba. Escuchando Radio FMR. 89.1.
Que vous prépariez votre taboulé ou votre café, vous que vous ayez encore les yeux collés de votre soirée, vous écoutez Radio Éphémère et nous sommes le samedi 10 août 2013.
Putain, c'est en rime.
T'as vu ça? Nos programmes pour cet après-midi. Je vais faire des alexandrins la prochaine fois. À 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires toujours et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Janet Dead. Et à 17h, Éphémère cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le dessin animé avec des animaux trop mignons que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Ensuite, il y a eu d'autres créatures, hein, Mothra, Ghidra, Gamera, Frankenstein versus Baragon, Invasion Planète.
Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai entendu ça tout à l'heure, la Frankenstein versus...
Mais oui, Frankenstein a combattu.
Il est en quelle taille, Frankenstein?
Mais on s'en fout, il est contre Godzilla.
On sait juste une chose, qu'il devait payer ses impôts.
Radio FMR présente... Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks en modulation de fréquence analogique. Avec, dans cet épisode, du sport, Ultimatum, Morgan et Dash Critch.
Je suis content que mon nom soit cité officiellement. Et avec ce générique.
Non mais c'est bien parce que... Oui, c'est la première fois qu'on entend ton nom dans le générique.
C'est la première fois qu'il y a mon nom dans le générique et il y a Happy to Friend, donc c'est un peu le plus beau jour de ma vie, j'ai envie de dire.
Non mais il pète au moins ce générique. Ah, il est trop court, on peut pas s'en servir du coup.
Non mais Xavier, il faut garder ce générique pendant l'année.
Ah oui, non mais
il est trop court.
Justement, le plaisir est court et il est instant. Tu vois, c'est l'instant.
Non, vous imaginez si des gosses se retrouvent à regarder Happy Tree Friends parce qu'ils trouvent le générique trop sympa.
Xavier, c'est un bonheur éphémère.
Il est en forme. Je crois que là, il est en forme.
He's back. Je m'auto-applaudis.
Bravo.
He's back.
Et oui, mais c'était les vacances, moi.
Il va tout défoncer.
J'ai fait, en fait, j'avais un calepin ces vacances et je notais toutes les blagues que je pouvais faire, tu vois. Donc là, je l'ai.
C'est bien.
Le dictionnaire. Voilà. Faire des bruitages, c'est génial.
Bon, voilà, je passerai évidemment le montage, ceux qui le veulent, et puis voilà, point. Ceci dit, bonjour et bienvenue.
Salut.
Aujourd'hui, hello. Une émission sous le signe du spiritisme, non, du spirit, pardon, de la magie, de la sorcellerie, et je l'ai vu, qui a écrit ça?
Mais...
Un film...
Attends, je l'ai vu, qui a écrit ça? C'est moi. Non mais vous arrêtez sur le document collaboratif un peu, oui. Alors, voulez-vous... Si vous me sabotez le prompteur, comment voulez-vous qu'on fasse correctement le boulot, quoi?
Le pas moi, c'est pas moi.
D'accord, donc c'est toi qui l'as vu.
C'est ça, j'ai vu cette semaine.
Ça va être super, ça va être plus simple.
En VO.
C'est mieux.
Et c'est beaucoup mieux.
C'est mieux que moi.
Tu l'as vu en VF?
Oui.
Ah, t'as pas dû, y a plein de
moi, je suis plutôt en périphérie de Toulouse, donc je vais au multiplex pour les gens qui ont pas de culture.
Je suis désolé, t'as le droit de râler, de hurler, de péter ton câble sur Twitter, on est suivi, sur Facebook, sur Google+, et sur ton blog.
Oui.
Et sur le petit oiseau, ouais, c'est vrai.
Non, j'en ai cité trois, là je peux, alors d'accord.
Bon, du coup, on en discutera tout à l'heure.
Alors c'était un appel à enchaînement, mais je ne sais pas quoi enchaîner dessus.
Rapidement, qu'est-ce que l'on a vu? Il y a le réalisateur de Elysium qui a fait un aveu sur Boing Boing. En fait, c'est un journaliste qui a joué le chroniqueur sur Boing Boing pour le film Elysium. Et il a dit, ben, c'est très simple, en général, tous les critiques de la banlieue de Los Angeles et sa banlieue ont rendez-vous dans un multiplex, on y va, le popcorn est gratuit, on regarde le truc, la projection commence, on a vu 100 000 fois le même film, donc tout le monde se barre à la fin, on discute même pas entre nous. Et le lendemain, on a rendez-vous avec le réalisateur pour une table ronde, voilà, pour en discuter, etc. Et le type, il pose, donc le gars de Boing Boing, il pose la question.
Faut remettre dans le contexte.
Pourquoi
on parle de la projection du film Elysium, qui est le deuxième long métrage de Neil Blomkamp, réalisateur sud-africain, qui avait troué le cul de tout le monde avec District 9, qui était un film de science-fiction pertinent et super bien foutu.
Et c'était exactement la première partie, en fait, de son intervention. Il lui dit, mais enfin, vous avez fait District 9, comment vous pouvez faire exactement le même film que tout le monde, c'est agaçant à force. Et le type lui répond, eh ben écoutez, peut-être que le prochain film sera peut-être plus personnel et le quatrième, faute d'audience, sera mon dernier. Alors je voudrais au moins avoir un très bon score une fois.
D'accord.
Donc quitte à avoir un très gros budget, ben voilà, ben je fais du consensuel.
Ceci dit,
c'est la baffe.
C'est la baffe parce que il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, tous les réalisateurs. C'est un peu le truc. Quand il y a combien de fois on a vu des réalisateurs prometteurs faire des petits films indépendants et quand ils sont broyés par l'industrie hollywoodienne, ils font un premier film mastodonte qui marche, un deuxième qui se casse la figure et après il devient has-been et il revient 15 ans après. Ça, on a vu tout ça tout le temps. Hein. On va voir.
C'est un peu inquiétant.
Voilà, ça nous ramène à l'émission de la semaine dernière où on parlait de Guillermo del Toro. On va voir ce qu'il va devenir maintenant.
Voilà. Donc on refait une émission dans 15 ans, quoi. Son comeback.
On aura des cheveux blancs.
Plus de cheveux pour notre.
En attendant, la rubrique cinéma sera bien évidemment consacrée à un blockbuster. Et à la demande d'Antoine Boudet, je peux lui confirmer. Oui, c'est un AV. Oui, c'est avec un magicien. Un nom vite. Non, pas de suite, c'est après. De suite, c'est la partie bande dessinée avec du sport.
Mmh. Oui, qui va commencer avec un comics, une fois n'est pas coutume, encore une fois, en VO. Mmh.
Et pas pour les enfants.
Logique.
J'ai mis le fond qu'il fallait.
Oui, ce n'est pas pour les enfants, puisque le scénariste est Garth Ennis.
Non, et comme c'est les vacances, on en profite pour vous sortir des trucs qui sont déjà sortis, qui ne sont pas forcément des nouveautés. Sauf que là, c'est quand même une nouveauté, mais c'est une réédition quand même. Hein. L'original est sorti en 2002, il y a 11 ans. Enfin bon, avec pas connu Super la Gloire, mais c'est un petit peu normal vu le contexte. Alors ça s'appelle The Pro. Et sur la couverture, on devine qui est la pro. En fait, c'est la pro. Hein, c'est elle l'héroïne de ce bouquin. Alors l'histoire est pas compliquée, c'est l'histoire d'une nana qui est mère célibataire et qui est obligée pour survivre eh bien, de vendre un petit peu quelques parties de son corps. Voilà, on va dire ça comme ça.
Mais les vendre comment?
Eh bien, les vendre contre de l'argent.
Ah oui, non, mais je veux dire, pas les vendre sans séparer. C'est
non. D'accord, oui, voilà.
En pièces détachées.
Oh, le plus vieux.
Non, quand même.
On parle là du plus vieux métier du monde, c'est ça.
Voilà, d'accord. Tout à fait. Okay. Tu as compris.
Carrossier.
Sauf que, dans ce monde presque parfait, bah, une nuit, ce qu'elle sait pas, elle. Hein, et ça, pour l'instant, le lecteur l'apprend assez vite, c'est normal, hein, ça fait partie de l'intrigue. Et bah, c'est que dans l'espace, il y a un super voyeur ou un super viewer, comme il l'appelle, qui contrôle tout et qui décide de s'amuser un petit peu avec les gens, avec les différentes planètes, comme ça, et sur la planète Terre. Donc, il a décidé de foutre quelques super-héros histoire de rigoler. Un bon petit coup. D'accord. Et là, comme ça, parce que il admire aussi un petit peu, ça aide, hein, l'anatomie la jeune fille en question.
Ah oui.
N'est-ce pas, quoi, hein, qui est quand même assez charmante.
Oui.
Et il se dit, serait pas mal comme ça, je l'aurais tout le temps sur mes écrans et tout, je pourrais la mater et tout, quoi, tu vois, le personnage extraterrestre qui est là et tout.
Oh,
quoi.
C'est Piccolo.
Et en plus, sa seule discussion, sa seule compagnie, c'est un robot qui est juste à côté de lui et tout,
ouais,
quoi.
Donc c'est,
puis,
pas, c'est pas fun.
Par rapport à ce qu'ils observent et tout, ils engagent, ils font des paris et tout, est-ce que tu crois qu'elle va le faire? Non, on va pas le faire.
D'accord. Donc okay. Il la contrôle pas vraiment, en fait, il l'observe juste.
Il l'observe et donc il lui file des super pouvoirs. D'accord. Et elle sait pas trop de quoi il s'agit et tout. Bon, elle a une caractéristique aussi, c'est d'avoir un langage pas très châtié, pas châtié du tout. Il y a toujours des fuck dans chaque phrase, même dans chaque expression, plusieurs fuck à l'intérieur d'une même phrase. C'est normal, c'est la façon dont elle parle. Et elle va faire la rencontre de ceux qui ont déjà reçu un super pouvoir, à savoir la Ligue de l'honneur. Oh. Avec bon, bah, des personnages super-héros stéréotypés que t'en peux plus, que c'est pompé déjà. Il y a Saint, le mec avec le S, il s'appelle Saint. Ouais. Ensuite, t'as
une capouille ensuite. Ouais.
C'est excellent comme idée.
T'as la nana, c'est The Lady, tout simplement. Ouais, on s'emmerde pas la vie.
Pourquoi il y a Borat?
Voilà, une brunette
ensuite,
avec
t'as
une,
également,
une étoile.
Oui. T'as le Blacko, c'est tout, quoi, parce que bon, bah, pour faire politiquement correct et tout, qui s'appelle The Lime et qui parle en argot rappeur américain. T'as Speedo qui a certainement une libido un petit peu ambiguë, mais enfin bon, c'est pas développé du tout.
Oui,
quoi.
Morgan a dit
caractéristique, c'est qu'il va vachement vite.
Il y a Super Borat. Avec un slip vert.
Le maillot. Ami auditeur qui est frustré parce que tu ne vois rien, dis-toi que le réalisateur non plus, parce qu'on lui montre que la couverture.
Et The Night, super-héros avec plein d'artifices autour, genre Iron Man, quoi. Enfin,
tiens, montre un peu à Xavier la double page.
Ami auditeur, c'est sur Twitter.
On a tout compris, quoi. Ok, alors, et de cette rencontre, bon bah, on devine que les membres...
Heureusement que vous avez pas l'image.
Il est fou, ce mec.
Laissez-moi continuer quand même. On devine que les membres de cette ligue sont relativement vertueux et ont une mission noble,
aujourd'hui.
Une mission noble à remplir par rapport au monde, par rapport aux êtres humains normaux, par rapport au gouvernement et tout ça, quoi. C'est-à-dire leur boulot, bah, c'est le boulot de super-héros normal, à savoir dès qu'il y a des super-vilains ou des vilains, on essaye de les virer. Et elle est là et tout, quoi, tu la vois en plus. Bon, bah, politiquement incorrecte quand même, parce que elle a son bébé. Alors déjà, son bébé... elle l'affuble de tous les mots, enfin bon, elle est pas violente avec lui, mais enfin elle dit putain, si tu pouvais te barrer et tout, tu fais chier, enfin bon, tu vois, elle le tient, elle a la clope au bec, ouais. Tranquille, et c'est comme ça tout du long, hein, pas de problème, quoi. Et donc, visiblement, c'est pas trop son état d'esprit, on va dire, quoi. Parce que elle est un petit peu, on va dire, elle est très jeune, mais elle apparaît quand même très mature et très usée dans ses relations avec les autres humains, on va dire, vu son boulot.
D'accord. Hein, oui, elle est usée, je vois.
Mais elle se dit, on va quand même tenter le coup et tout, quoi. Donc, elle se voit affublée dans une espèce de costume et tout, quoi. Alors, j'aime bien, parce que tu vois pas, mais dans les pages précédentes, tu montres comment elle est habillée. Alors, ils vont chercher dans les vieux cartons de vieux super-héros, tiens, on va prendre un morceau de ça, tiens, un morceau de celui-là et tout.
Pas mal.
Et donc, ça donne ça. Et lors de leur premier combat contre des super-vilains qui ont des noms relativement fleuris, genre il y a le verbe, il y a l'adverbe et il y a l'adjectif. qui s'attaque quand même aux Nations Unies, hein, c'est pas n'importe quoi, tu vois, quoi. Et donc, il y a un fight frontal, et elle, comme baptême du feu, si tu veux, elle reçoit une boule laser des nanas, quoi, justement, quoi. La Noine, quoi, qui lui balance une boule laser, ça fait mal, et donc elle va rétamer cette nana, mais carrément à l'intérieur des Nations Unies, devant tous les congressistes.
Ah, d'accord.
Elle va lui rétamer la gueule, mais avec du sang et tout, c'est-à-dire ça commence à être violent, genre The Boys, tu vois, là, pour l'instant, on est assez soft, quoi, on va dire,
sale.
À part des formes dénudées de jeunes filles, même de jeunes effets masculins, on va dire aussi. Mais là, ça commence à devenir franchement un petit peu heavy, et ça se termine par elle qui pisse tout simplement sur la gueule de sa nana par terre.
D'accord, carrément.
Devant les gens, quoi.
Ah, ben on a
devant les gens, quoi.
Bien cette émission,
Ah oui. Très bien.
D'accord. Ouais, et là, les autres décident que ça la fout mal et tout, que c'est pas tellement dans l'état d'esprit et tout. Quoi. Elle dit mais la fin justifie les moyens. Enfin bref, les arguties habituelles. Bref, vous voyez un petit peu le genre de BD que ça peut être. Quoi.
Oui,
et ça va continuer un petit peu comme ça avec un point d'orgue qui est un petit peu la fin de la BD et qui signifie peut-être aussi la fin de l'aventure, quoique il y a un numéro 1. Mais pour l'instant, comme c'est sorti en 2002 et puis il n'y a pas eu de suite.
En 2002
manifestement, ouais. Il y a quand même eu un essai, et cet essai, on l'a derrière, justement dans cette réédition. Et en fait, ça a été une toute petite aventure, dans un fascicule, une aventure de quelques pages, et qui concerne The Pro. Et c'est The Pro meets The Ho. Et The Ho, c'est elle. Alors, The Ho, dans le langage américain, c'est le diminutif de The Whore, c'est-à-dire la prostituée. D'accord. Et elle a une particularité, quoi. C'est que tu vois qu'elle a plein de mains, quoi, plein de bras, quoi. Donc, elle a la particularité de faire vachement plus de branlettes en même temps. Et donc, avec The Pro, ils vont se livrer à un concours. Parce que elle, The Pro, l'avantage qu'elle a aussi, c'est sa rapidité en tant que super-héroïne.
Ouais.
Ah, bravo.
Voilà quel est un peu l'état d'esprit de ce bouquin.
Ami précoce,
donc bonjour. Scénarisé. C'est bien parce que c'est un concept que même Fred Coppola n'aurait pas imaginé. C'est pas mal.
Alors, c'est donc scénarisé.
Tu chroniques ce genre de film, toi.
C'est donc scénarisé dans, par Garth Ennis. Dessiné par Amanda Conner et ancré par Jimmy Palmiotti, qui est son compagnon, hein, on va dire. Hein, Amanda Conner, il faut que je retrouve mes notes là vite fait, quoi, maintenant. Elle a commencé, quoi, au bas de l'échelle. Elle a suivi les cours de la Jukuber School parce qu'elle était vraiment fan de.
Elle a couché pour ici.
De comics. Elle s'est mariée, elle a ouvert une boutique de comics, puis elle a divorcé, et là, elle a commencé comme dessinatrice, elle a fait du Daredevil. C'est elle qui fait le spec soyeux dans les Before Watchmen.
D'accord.
Ok. C'est elle qui a fait Vampirella, une grosse partie de Vampirella, celui que je vous ai présenté de Millar et de Morrison aussi.
D'accord.
Moi j'aime bien son dessin. Quoique dans The Pro, on voit la différence parce que ça a quand même 10 ans. Et là, on se rend compte que par exemple dans Spectre Soyeux ou dans des trucs plus récents, elle a vraiment mûri. Elle maîtrise vachement mieux. Quoique là, c'est quand même vachement bien, quoi, déjà. Hein. C'est vraiment très très bien. Et donc avec Palmiotti à l'ancrage. Et une mounts aux couleurs. Et ce qui est vachement rigolo, c'est que au départ, t'as en préambule ce petit texte qui s'appelle Hartung Engländer. En fait, ça raconte, c'est Garth Ennis qui raconte comment est née cette série. Et en fait, c'est un truc tout con parce que il se retrouvait dans une convention de comics à Düsseldorf en Allemagne, un petit peu paumé. Et le soir, ils étaient plus ou moins livrés à eux-mêmes. Alors, justement, à cette convention, il y avait Ennis, il y avait Conner, il y avait Palmiotti, il y avait également John McCree, le mec qui a fait Dix avec Garth Ennis, qui a fait également Erogasme, plus d'autres dans The Boys, et il se retrouve dans un bar irlandais à Düsseldorf.
Ok.
Alors Garth Ennis dit c'est pas la plus mauvaise Guinness que j'ai bu dans un bar à l'étranger, la plus mauvaise je peux vous dire où c'est dans un bar en Afrique du Sud, où là c'est vraiment dégueulasse. Et par contre on commence à discuter, moi c'était une idée que j'avais, puis je l'ai proposé aux autres, et tout de suite ils sont tombés d'accord, ok, ouais, ça pourrait être cool et tout. Et après il continue dans son délire, mais ça c'est plus un délire personnel où il raconte ce qu'aurait dû être en fait cette espèce de petite conférence de rédaction de bulle de pensée où tout le monde va ramener des idées et créer justement quoi ce qui va devenir l'objet final, à savoir la bande dessinée. Et là on se fend également la pêche, quoi, c'est vraiment très très rigolo. Bref, The Pro, donc chez Image Comics, Garth Ennis, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Nick Mounts.
Ouais, on va passer de suite à de la magie, des sorcières. Ouais, prostituée égale sorcière.
Alors on rassure nos amis auditeurs que le plus gore est passé, hein, c'était dans la matière, c'est bon, il n'y a plus rien. Après.
C'est
bon,
ce
là.
Que tu crois.
Oh, c'est encore gentil. Hein.
C'est l'échauffement là.
Putain, je sais pas ce qu'il se faut, c'est encore gentil. Bon, bref.
Bon, allez.
Allez, là on parle de sorcellerie effectivement avec un nouveau manga français. Ça s'appelle Radiant et c'est scénarisé et dessiné par Tony Valente. C'est dans le sens de lecture originale, au format manga, en noir et blanc, avec un personnage principal que vous pouvez voir sur la jaquette, qui est totalement dans le code du shonen manga, c'est-à-dire le manga pour garçons japonais. C'est un manga qui reprend tous les codes du manga, type Shonen Jump, etc. Avec des pouvoirs, un monde un petit peu farfelu. Une grosse fiole, oui.
J'ai eu très peur.
Moi
je
aussi.
Rappelle qu'il est que midi 18. Hein.
C'est sa fiole. C'est ta fiole. C'est ta fiole, je ne sais pas.
C'est ça, ta fiole.
Alors attends, j'ai oublié de sortir mes fiches, moi peut-être. Attends, je prends mon classeur.
Personne n'arrive à suivre ici.
Si, je vois les réactions qui remontent.
Alors, classeur éphémère, je tiens à préciser quand même.
Hein. Voilà. Alors Radiant, voilà, Tony Valente, donc c'est édité chez Ankama. Donc Ankama persiste dans le manga français puisque c'est à eux qu'on doit l'excellent City Hall, qu'on doit Appartement 44, dont je vous avais déjà parlé.
Que j'ai chez moi.
Oui, tout à fait. Qu'on a aussi The Bazer. Bon voilà, du manga français, ils connaissent. Pour l'instant, on est parti sur une série en 3 tomes. Tony Valente, c'est celui qui avait fait... ses gammes dans de la BD... de la BD d'aventure française, franco-belge. C'est lui qui avait fait Speed Angels. Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais je t'en prie, continue.
Oui, oui, donc c'était le sens de lecture japonais.
Il est d'une autre génération. on vous explique Morgan. Il était très surpris par le panneau sans interdit. Ils se disent, mais il y a encore des gens qui ne savent pas que quand c'est ce format et en noir et blanc, c'est dans l'autre sens.
Je me dis, c'est étonnant que ça y soit encore, ce genre de truc. Ça fait quand même quelques années qu'on le sait. Mais non, mais très bien, pourquoi pas. Mais poursuis, moi, c'était pas pour.
Voilà, donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Seth, qui est un jeune boulet, maladroit, loser, attachant. Donc vous riez la mention inutile comme ça vous arrange. C'est un aspirant sorcier de la région des Pompo Hills. Il vit avec Alma, c'est une sorcière chevelue qui est beaucoup plus expérimentée et qui le ménage franchement pas. Elle est plutôt, si vous me suivez, elle est plutôt adepte du bourrage de crâne par les phalanges, si vous voyez ce que je veux dire. Elle lui fait l'apprentissage de la vie avec la manière forte.
D'accord.
Comme tous les sorciers, parce que ça, on est dans un monde de sorcellerie, Seth est un infecté car il fait partie des rares survivants après une rencontre avec un Némésis. Un Némésis est une créature mystérieuse, tombée du ciel et décimant tout ce qu'elle touche sans distinction. Donc il y a plusieurs Némésis qui tombent régulièrement, voilà. À l'instar des autres infectés, Seth est atteint d'une mutation physique. Donc ça, c'est l'un des parties pris scénaristiques et graphiques de la série qui est pas mal. C'est-à-dire que chaque infecté, en fait, a une mutation différente. Et lui, en l'occurrence, en fait, il a deux cornes qui lui ont poussé sur la tête.
La tête, d'accord, ok.
Voilà.
La tête.
On est dans un monde de sorcellerie. Ça veut dire qu'on épouse le point de vue des sorciers. Mais il y a quand même un inquisiteur et il y a la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que les sorciers, malgré le fait que tout le monde savent qu'ils existent et tout, ils font vachement peur aux gens qui sont pas des sorciers.
D'accord.
Donc c'est un mélange entre le shonen manga à base de super pouvoirs et aussi l'obscurantisme européen. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme
idée. Et puis ça tombe bien, c'est la saison du barbecue.
Voilà. Alors en parfait blanc bec maladroit, parce que Seth c'est quand même un gars super énervant au début de la série, ses rêves de devenir chasseur de Némésis ont un peu du plomb dans l'aile parce qu'il croit bien faire, mais il déclenche catastrophe sur catastrophe. Il récolte surtout ce qu'il sème, c'est-à-dire il est poursuivi régulièrement par les habitants des villages qui pensent qu'il est là pour foutre la merde alors que lui il veut juste aider les gens. Jusqu'à ce que le destin ne lui offre une chance de faire ses preuves. Et plus qu'une simple chasse au Némésis, surtout Seth veut surtout atteindre la mythique source d'où proviennent les créatures. Une source dont on a juste entendu parler, on sait pas si ça existe, ça s'appelle le Radiant. D'où le titre de la série. Alors vous l'aurez deviné, Radiant obéit au code le plus obligatoire du shonen manga. Alors là où franchement d'habitude quand on parle de manga français, on dit toujours oui, ça manque un petit peu de maîtrise par rapport au manga japonais dont ils se réclament les descendants, il y a beaucoup trop de références d'habitude, mais c'est un peu dans le désordre. Alors là franchement c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que il y aurait pas le nom de l'auteur, tu croirais vraiment que c'est du japonais, franchement. Ouais. Là, c'est vraiment, on est dans. C'est un mélange, mais parfaitement assumé, digéré de Naruto, de Hunter x Hunter, de Dragon Ball, de One Piece, de Bleach. C'est plein de références comme ça. Franchement, tu feuillettes le manga, tu te dis, mais c'est fait par un japonais. Tiens, regarde Xavier, je te passe également l'exemplaire. Donc voilà, on a des références.
C'est impressionnant, ouais. Je confirme.
Ah, oui. Donc là, franchement, c'est une série vraiment en devenir. Alors, c'est vraiment, vraiment dommage parce que bon.
Et puis, il y a le même sur ce type de série de medieval fantasy et tout ça. Il y a toujours le même genre de délire cumulé en fait, de fantasy de plus en plus dingue, etc. Et c'est vrai qu'on ça fait vraiment manga japonais.
Alors, on est dans le shonen pur jus, donc ça veut dire que plantage de décor dans les premiers tomes. Le héros, on devine qu'il a quelques pouvoirs, mais ça sort dans le désordre. Donc ouais. Évidemment il lui faut un maître pour canaliser ses pouvoirs.
D'accord.
Pour s'entraîner, pour essayer d'affronter des ennemis encore plus puissants. On voit que le mec il en veut, le héros, mais il commet quelques conneries au début, donc tu sens que à la Naruto c'est un petit peu un maladroit, voilà, mais il a
gros
bon cœur, il a bon fond,
mais...
gros potentiel, voilà. Ensuite, alors le côté dommage, c'est que crise oblige, les éditeurs français ils peuvent pas lancer comme ça une série de 30 tomes, donc là ils ont commandé 3 tomes juste. Donc le côté dommage, c'est que on sent que si l'auteur Tony Vanant a décidé d'épouser tous les codes du manga, donc ça veut dire intrigue à rallonge, donner de l'espace au combat, etc. Même si c'est quand même le cas dans le premier tome par rapport à City Hall qui était vraiment très condensé, et là quand ils se font la baston, eh ben l'auteur il hésite pas à faire plusieurs double pages sans dialogue, donc c'est pas mal, c'est vraiment dans la logique manga. Par contre, comme on sait que ce sera un premier cycle de 3 tomes, c'est peut-être un peu dommage, on se demande si tous les personnages vont avoir un peu d'espace pour respirer, et surtout on voit vraiment que les personnages sont vraiment attachants et qu'il y a vraiment un gros potentiel derrière, parce que à la fin du tome, il arrive dans une cité de peuplée d'infectés et de sorciers, et là franchement t'en prends plein la mirette, parce que tu vois que les mutations des fois c'est n'importe quoi. Les super pouvoirs, t'as même un clone de Lunch de Dragon Ball qui Excellent. A double personnalité quand elle éternue, là c'est que pas en éternuant mais c'est un peu la même chose. Vraiment tu te dis mais développer ça quoi, c'est, ouais. Voilà, donc on attend de voir. Si vous pouvez, je m'adresse aux auditeurs, si vous pouvez vous précipiter sur cette série, sur ce premier tome, l'avantage des mangas c'est qu'un tome c'est pas cher, et en plus si la série vraiment décolle et que ça c'est ensuite un futur hit, ben vous serez vachement fier d'avoir lu le premier tome quand
d'avoir
il est sorti,
contribué à ça,
voilà, et pas a posteriori en rattrapant le retard. Radiant, vraiment moi j'ai surkiffé, c'est vraiment une bonne série, un bon manga, bon exercice de style. Voilà, Tony Valent, un auteur qui est né à Toulouse d'ailleurs. Voilà, donc Cocorico, Froggar Cassoulet, tout ça. Tony Valent, Radiant, tome 1, format manga, sens de lecture japonais noir et blanc, chez Onkama.
Extrait de la bande originale de la série Vision of Escaflowne.
Escaflowne.
Voilà. Yes. N'allez pas croire. Je savais pas quoi mettre en fait.
C'est cela, oui. Tu sais te faire passer un message. Divin.
Alexandre Hervaux, confrère du Mou, la radio destinée à reformater le cerveau des jeunes, nous a annoncé il y a une semaine donc que les trois suites d'Avatar vont arriver, donc ouais. Trois suites, et Cameron va bosser donc sur les scripts avec le créateur de la série Sarah Connor Chronicles.
Sarah Connor Chronicles, malgré quelques épisodes qui étaient servis de remplissage, c'était pas mal. Franchement.
C'était vraiment pas mal, donc à voir.
Et Avatar, il me semble que c'est sorti prévu décembre 2016, décembre 2017 et 2018. Il les tourne d'un seul coup.
Oui, en frontal au Star Wars voilà. Kids 7, Star Wars 8, Little Kids et Star Wars 9, New Views. C'est une excellente chronique du 300e supplément week-end, tu me le suis refaite, elle était géniale. Vraiment, enfin, c'était une chronique gag, mais c'était très très bon. On enchaîne les sorties bande dessinée.
Oui. Allez,
12h27 sur Radio FMR.
Alors cette fois-ci, tout le monde a vu, je pense, La Planète des Singes.
Oui.
Tout le monde.
Laquelle?
Avec Charlton Heston, la première.
Ouais. Ah bon, oui, j'ai bon. Peur.
Là, tout le monde voit un peu les films de gangsters de Guy Ritchie.
Oui.
Eh ben, vous croisez les deux, ça donne Monkey Business.
Cool.
Monkey Business. Voilà. Alors, le puissant. Alors, je vous laisse les exemplaires pour
Montre-moi
vous.
Montre-moi ça.
Le puissant Hammer Fist et son pote le teigneux Jack Mandrill sont deux loubards vivant dans un mobilhome si respectés que la pègre les laisse en paix. C'est sûr qu'ils veulent pas se prendre des bourre-pifs dans la gueule. Comme tout bad boy qui se respecte, ils sont accros, substances hallucinogènes, tabassent des gangs adverses, vont aux putes et font quelques haltes à la casse-prison. Sauf que les deux loustiques, bah c'est un gorille et un chimpanzé, que leur fief divisé par des gangs se nomme Los Animales, et que nous sommes en l'an 2425, des années après l'autodestruction nucléaire des humains.
C'est tellement
D'accord.
banal.
Voilà. Alors okay. Vous voyez, La Planète des Singes, c'est pas du tout des singes avec des toges et tout, non, c'est des singes avec des gangsters comme aujourd'hui, sauf que c'est des singes. D'ailleurs, les derniers crétins descendants de notre race, des sans-poils, comme ils s'appellent, vivent en marge, dans la forêt, c'est des gens qui, dont leur cerveau est semblable à un petit pois, et ils sont complètement tarés. Pile poil le moment que choisit l'astronaute Ramos pour revenir de son voyage sur Mars.
Ah bah tiens.
Sauf que dans La Planète des Singes, Charlton Heston, il est super intelligent, c'est le gars qui
il a deux compagnons d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Bah là Ramos en fait, c'est un fiefé crétin intégral. Son père était raciste, adepte du sadomasochisme et tout. C'est Ramos.
Je vous avais dit que ça allait repartir. Là.
Voilà, s'il pouvait tuer toute sa famille pour entrer dans cette putain de fusée, aller sur Mars et tout, il l'aurait fait. Sauf qu'il est allé sur Mars, il a dit c'est nul ici, et puis il revient. Et entre temps, paradoxe temporel, tout ça, il revient au milieu des singes. Forcément, quand tu as Hammer Fist et Jack Mandrill, qu'il faut pas trop les faire chier, qu'est-ce qui se passe Il y a un concours de circonstances, on va dire, un peu malheureux qui témoigne bien de la maladresse de Ramos, et il se passe un truc pas cool pour son anatomie. Et le voilà, en fait, au milieu de ses congénères sans poils. Alors tu te dis que c'est en fait c'est divisé par chapitres, avec une chute de gag à chaque fois, ouais. Des gros chapitres de, on va dire, 20 pages, et tu penses que Ramos, tu le verras plus après. Mm. Sauf qu'à un moment donné, tu te comprends au début d'un chapitre que c'est en fait un flashback de sa famille, et c'est pour introduire le retour de Ramos. Dans le tome 2, d'accord, Ramos revient avec... Alors, il trouve rien de mieux que de ressusciter,
le nom est génial,
que de ressusciter un dictateur qui était aussi crétin que lui, mais on va dire c'est un mix entre Kim Jong-il et un ancien président de la République française élu en 2007. C'est vraiment du n'importe quoi. Moi j'ai reçu la BD.
C'est petit ce qu'il a fait.
C'est Monkey Business, donc c'est dessiné par Pozla et scénarisé par El Diablo. El Diablo, c'est les Lascar, c'est ouais. Pizarro Trip.
Ah ouais, oui.
Quand j'ai commencé à feuilleter, c'est vraiment une colorisation.
Les dessins, ils sont mais vraiment trop drôles. Quoi.
Ils sont, ouais, alors par contre, c'est super chargé. Les couleurs en ton rompu, ça fait vraiment du underground pur jus. Tu te dis, ouh, je vais me flinguer les yeux, et tu dès les premières pages, tu dis, mais c'est énorme, c'est vraiment excellent.
Faut écouter du Gorillaz en lisant ça, non?
Ah ouais, je pense, ouais. Mais là, vraiment, mais c'est les deux singes principaux, mais tu te fends la poire chaque fois qu'ils apparaissent, quoi. C'est, à un moment donné, je les ai notés, il y a quelques anecdotes, à un moment donné, il y a...
Ils ont des bonnes gueules, ouais.
Ah ouais, non, mais là...
Avec les lunettes...
Ouais, il y a à un moment donné, ils doivent semer un mystérieux tueur qui veut les atomiser. Il y en a un des deux qui à un moment donné qui est embrigadé dans la secte du jambon doré, qui va lui laisser quelques séquelles corporelles, on va dire, avec des voilà. Bon, je ne dis rien. Ensuite, il y a un chapitre, mais poilant au possible, où ils vont se lancer dans un concours de drague.
Ah.
Où il rencontre un singe dont la mère fait une irruption. C'est une vieille guedon cougar motarde qui s'appelle Chantal.
J'ai vu, je suis tombé dessus.
Et en fait, c'est le chapitre, en fait, chacun va essayer de virer l'autre sur les bas-côtés pour essayer de se la faire.
Ah, d'accord.
Et la chute de ce chapitre, mais je me suis pissé dessus de rire, franchement, mais c'est mortel. Je ne peux que le conseiller à ceux qui, bon, il faut passer un petit peu le rideau graphique où franchement, c'est pas le lecteur, ouais, de BD Dupuis qui va lire ça, quoi. Franchement, c'est vraiment underground, c'est assez chargé, mais franchement, si vous passez outre, mais c'est vraiment excellent. Monkey Business, tome 1 et 2, c'est parti, ils peuvent en faire, mais 5 de plus au moins, il y a un gros, gros, gros potentiel. En plus, non seulement ils se sont des bourrins, les deux, mais ils sont méga intelligents. Donc, à un moment donné, ils retournent des trucs. Tu vois que tout leur plan à la fin du chapitre, ah, c'était pour ça! Ah, les enculés! Voilà, c'est. Voilà, franchement, en plus, c'est pas que des primates singes. Les personnages dans cette histoire-là, il y a des éléphants, il y a des homards. Il y a un moment donné, il y a un chapitre excellent où c'est l'histoire de, c'est comme Batman, sauf que c'est un homard. Il y a sa famille Batman qui a été cramée et il va essayer de s'improviser super justicier. Tout ça pour se faire écraser par la bagnole des deux singes qui sont en train de fumer un pétard.
Ah oui, donc c'est un peu tarantinesque aussi.
Ah oui, oui, oui. Voilà, donc Monkey Business tome 1 et 2 chez Ankama par Pozla et El Diablo, c'est excellentissime, c'est vraiment drôle, c'est vraiment la BDDT pur jus, et franchement, vous pouvez vous précipiter dessus, vous m'en direz des nouvelles.
Supplément week-end numéro 356, 12h33, pardon, pas de pub cette semaine. Ça fait du bien. Et on nous pose une question, à savoir, est-ce que c'est le Seigneur des Anneaux tout à l'heure pour la partie cinéma? Eh ben non.
Et pas du tout.
Ben non.
Par contre, on m'a demandé si j'avais amené des VHS aujourd'hui. Eh ben non.
On a que des vinyles.
Eddie, si tu nous écoutes, nous t'oublions pas pour la spéciale Vin Diesel fin du mois.
Continuons dans les sorties bande dessinée.
Allez, plus du old school à présent. Avec, on va commencer avec du Doc Savage. Alors, Dieu sait si j'avais descendu cette bande dessinée, puisque c'est la gamme First Wave. First Wave, Doc Savage, les deux premiers tomes, j'avais pas vraiment apprécié. Le 3.
Et puis le personnage est pas super. Était pas super bien rendu. Franchement, les premiers tomes, ça lui donne pas justice, quoi.
Bah, franchement, Doc Savage.
Doc Savage, Doc Justice.
Bah, c'est l'homme
tu
de.
Sors.
c'est l'homme de bronze qui franchement il a pas de faille, c'est un gars super intelligent, super musclé, qui brille de partout, il a aucune faille, il a une enfance normale.
Oh, le mec chiant quoi.
Ouais, le mec chiant, il a de la fortune, il est entouré que de bras droits qui sont super intelligents et costauds comme lui. Le gars, dès qu'il voit une femme, franchement la nana elle est à ses pieds. Ouais, c'est la BD old school. Voilà, donc Doc Savage. Ce troisième tome, franchement, c'est le dernier de la série. Je dois dire que ça relève le niveau parce que au début, en fait, tu es embarqué dans une histoire de momie mutante parce que c'est pas mutante puisque c'est une momie qui est ressuscitée et qui est super baraquée. C'est pas la momie toute filiforme. Là, c'est la momie qui déménage et qui casse des murs. Donc il y a une momie qui fout le dawa dans le muséum de New York.
Pas mal, bien placée celle-là. Dawa.
Oui. La piste, donc ils vont se lancer à la poursuite de la momie, surtout qu'il y a une belle demoiselle au corset déchiré à sauver parce qu'elle était embarquée par la momie.
Il lui arrache la chemise, hein. Enfin, il pose même pas de questions. Genre,
voilà. La piste de la momie, tenez-vous bien, va les mener à Doc Savage et ses amis sur les traces d'un mystérieux talisman jusqu'au bout du monde, du Caire, aux plaines de Mongolie. Parce que forcément, quand tu es scénariste de Doc Savage et que les méchants peuvent ressusciter n'importe quoi, allons-y, ça va en fou, on ressuscite les descendants de Gengis Khan, on a une demoiselle en détresse, des ruines de civilisation ancestrale, forcément des temples qui s'écroulent juste après que tu aies sauvé la nana au milieu, ouais. Forcément des primates qui ont rien dans le ciboulot, mais heureusement Doc Savage au milieu, bah, justement lui l'intelligent, donc il va les mener à la baguette. Alors voilà, il faut accepter d'aller dans la BD old school d'aventure. D'ailleurs, la couverture, on se trompe pas, hein, c'est Doc Savage avec un tuba qui lutte contre un crocodile mutant géant. Donc voilà, franchement, là j'ai vraiment pris un peu de plaisir. C'est la BD d'aventure. Le héros s'en va.
Égaré dans la vallée infernale.
On peut couper le micro d'ici.
Voilà. Voilà, donc rien à dire de plus par rapport à cette BD là. Si vous êtes fan des vieilles BD d'ailleurs, Lusport avait lu les deux premiers tomes.
Ouais, je te passe moi j'avais bien 3. Aimé le premier, le deuxième, moi je trouvais que ça tenait la route. Mais le premier, moi j'avais bien aimé. Hein.
Ouais,
franchement quoi.
C'est le fameux épisode où il arrive à s'extirper de la cage d'ascenseur avec ses ongles. Ouais.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, non, mais attends, il est pas très mal. Fort. Hein.
Hey.
Classe.
Oh yeah.
Alors,
c'est l'homme au torse de bronze.
Ouais.
Qui pas oublié.
Alors
juste le
truc négatif dans cette BD là, c'est que comme s'il y a plusieurs dessinateurs, en fait, des fois tu te rends pas compte, c'est le même personnage, parce qu'à un moment donné il est blond, coiffé à la GI, ensuite il devient roux et rasé. Donc tu dis ah, c'est Doc Savage qui parle, attends, je vais revenir 3 pages en arrière parce que comme c'est lui qui parlait, j'avais pas capté. Voilà.
Ouais, bon. Ça, très mauvaise idée, ouais.
Voilà, sinon, ouais. Il a toujours sa veste, sa chemise de safari qui est tout en déchiré pour montrer ses muscles.
À la Indiana Jones.
Voilà, son pantalon qui est déchiré juste au bon endroit pour pas perdre sa virilité. Voilà. Et voilà. Donc, First Wave, Doc Savage, tome 3, scénarisé par DJ Jones de Wanted, mise en image par King Bing Mui, Dan Panosian et Phil Winslade pour être complet. Voilà.
Merci.
T'as pas fini.
Et j'enchaîne juste rapidement avec le pendant de First Wave, également un tome 3, également la fin d'une série, c'est le First Wave The Spirit. Yes. Avec donc l'autre série inspirée de First Wave de Brian Azzarello, et donc ça c'est là également, donc je l'ai dit, la fin de cette série là toujours des épisodes bien poilants du Spirit, avec premier chapitre une nana qui doit aller à la poursuite d'un secret de son ancien mentor qui avait planqué des indices dans un comics qu'il avait dessiné. Donc ça c'est marrant puisque c'est un clin d'œil, voilà, mise en abîme. Ensuite une histoire encore une fois de femme fatale avec ce qu'il faut où il faut dans des chemisiers qui mettent en valeur sa plastique, dont forcément s'il y a une belle femme, The Spirit ils font à chaque fois forcément. Un chapitre également où The Spirit devra prouver son innocence parce que tout porte à croire qu'il est le tueur qu'il a tué quelqu'un. Donc bon, tu te dis ouais, pas lui, non, c'est pas vrai. Et là, le clou de ce troisième tome de cette série, ce sont plein d'histoires courtes en noir et blanc, avec plein de rendus différents, avec bon, forcément des histoires courtes, donc 4 pages tout au plus, donc c'est plus une micro-histoire. Mais franchement, on boude pas son plaisir. Du Spirit, vraiment dans l'ancienne tradition, avec l'ancrage bien marqué comme avant, avec même des histoires en crayonné qui sont vraiment sympas.
Lesner avait souvent changé de style dans The Spirit, technique comme ça, et c'est vrai que ça le fait, quoi. De loin, déjà, je trouve que ça donne envie, tu vois.
Ah oui, ben un troisième tome en plus bien fourni en pages, une pagination importante. Tiens, du sport me fait des signes, tiens, pour toi aussi.
Comme ça, j'aurais fait la totale.
Une très très bonne trilogie, par contre, The First Wave, The Spirit, d'après le reboot orchestré par Brian Azzarello, le scénariste. Ne boudons pas notre plaisir, bonne stature, bon dessin, bonnes histoires, et puis vraiment, une bonne série légère, comme il faut. The Spirit, d'après, évidemment, le personnage créé par Will Eisner, tu l'avais dit tout à l'heure, chez Ankama, toujours dans la collection Pulp Heroes.
Ça va en faire de la lecture cette semaine.
Ah bah ouais, surtout.
Vous êtes en forme. Oh là,
mais tu peux le tutoyer.
Mais il me reste une. Non, vous êtes tous en forme là. C'est impressionnant pour une émission.
C'est le t-shirt.
Mais au secours. Mais il me reste encore une BD.
Oh là.
C'est moi.
Ah oui, Vermine.
Vermine 01, Victor Walou, Coince la Bulle, c'est donc son album qui sort chez Patapan Éditions. C'était les mêmes qui avaient fait l'histoire d'un Écolo Manchot. C'est le même éditeur qui se lance dans le business et qui avait fait Écolo Manchot, voilà. Et
échange de regard.
Ah oui. Âgé d'une quarantaine d'années et piercé, toujours drogué aux vidéos porno et aux rhum arrangés, je vous laisse deviner à quoi correspond cette description.
À toi ?
Est-ce que c'est le personnage ou est-ce que c'est l'auteur ?
Ah !
Voilà, et c'est un ex-copon reconverti dans les métiers artistiques de l'imprimerie. On ne peut pas dire qu'il soit au sommet de son art. Il se prétend web designer parce qu'il a du boulot à y choper, mais faut pas lui demander d'équerrer sa CSS avec ça, c'est parce qu'au bout de faire la web perf, alors c'est même pas la peine. On ne peut pas dire non plus qu'il est très fort à dégoter un job. Faut dire que Pôle emploi est un jeu vachement plus dur que ceux qu'il affectionne sur sa console de jeu. Forcément. Et puis faut dire aussi qu'il pense plus à se faire un maquillage à base de vomi les lendemains de gueule de bois que d'avoir le costume qui va avec la tête de l'emploi quand il se présente à un job. Et puis il est ignoble. Il envoie chier les copons plus jeunes que lui qui ne sont pas encore sortis du stade artiste quémandeur de rue. Il dégueulasse les beautés naturelles de la nature, etc. Bref. Alors quand il a un boulot, il s'embête pas. Il prend une image d'une personnalité, il l'importe dans Adobe Illustrator, deux coups de filtre après vectorialisation et hop, emballé, c'est bon à facturer. Alors le problème, c'est que vous demandez encore si je parle du personnage de la BD Victor Walou ou de son créateur Vermine01. Eh ben oui, il faut dire que dans la bande dessinée franco-belge, on a un sous-genre très bien fourni qui fait partie de l'ensemble bande dessinée du réel, à savoir la bande dessinée autobiographique de graphistes qui parlent de leur quotidien tout à fait normal, et dont ici le curseur est placé sur faussement léché mais crade quand on lit bien, et gag en une planche. Et
avec un sous-genre de cette catégorie-là, ce sont les autobiographies de dessinateurs graphistes papa.
Alors, est-ce que par hasard, tu voulais parler de C'est tout moi, de Fortou, qu'on a parlé récemment, édité chez Poivre
et Sel. Après, il y a du bon et du mauvais, ça c'est du mauvais. Paco, c'est très bien ce qu'il fait avec Maé, une semaine sur deux et tout. Mm. Très bien, c'est mieux, on va dire. En l'occurrence, tu n'as pas apporté l'exemplaire pendant l'émission, donc on ne peut pas augurer du graphisme.
Je suis arrivé un petit peu vite, je suis désolé.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de BD dans ce genre-là, oui.
C'est fait sous Illustrator, donc forcément, le trait, il est parfait, la colorisation est parfaite, etc.
Ça dépasse pas.
Mais l'histoire, au début, je la trouvais un petit peu chiante et banale. Désolé pour l'auteur et pour l'éditeur, mais non, j'accrochais pas. Et en plein milieu, au bout d'un moment, ça commence à devenir intéressant, où tu as Dieu qui dit « C'est ça le summum de l'humanité, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Le diable qui commence à essayer de le pervertir, commence à avoir des trucs au fur et à mesure, commence à aller bien, justement, quand il sort de sa quotidienneté, et que ça commence à aller un peu plus dans n'importe quoi. Instinctivement, je dirais que certains ne vont pas trouver ça drôle. Et c'est justement à eux qu'il faut absolument offrir la bande dessinée. Aux étudiants en beaux-arts qui veulent devenir dessinateurs de bande dessinée parce que c'est trop cool comme job. Eh ben non, le secteur n'a absolument rien de drôle. Donc, t'es gentil, mais c'est peut-être la meilleure vaccination qu'il faut pour... non, ça n'est pas ta vocation. C'est, tu vas en chier. Tu vas vraiment en chier.
Tu vas ruiner des carrières, là.
Oh oui, Victor Walou coince la bulle, c'est de Vermine 01, c'est chez Patapan Édition. Ouais, allez, oui, non, quand même, y a des trucs qui sont pas trop mal. C'est vrai que ça fait plus penser, en fait, plus ou moins à ce que l'on trouve dans Le Psychopathe. Ah mais attends, mais c'est tout moi, c'est prépublié dans Le Psychopathe. Ah, voilà. Voilà. Mais heureusement, vous qui réagissez en ce moment... Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui passent en ce moment sur, sur les réseaux sociaux. Ah ouais, ouais, ça y va à fond, là.
Il y a du cul, là.
Wow. Ça fait du bien, quoi. Au moins, vous nous écoutez. Ça...
Ah, c'est le printemps, les oiseaux chantent.
Non, c'est l'été.
Mince.
Saison.
Je me suis trompé.
Non, mais tu ne serais pas à l'heure. Mais dis-moi, est-ce que au moins, tu aurais préparé ta chronique?
Eh, hey, mais bien sûr. Ah... Ça m'a manqué. Savour.
Le grand retour.
Le grand
et
retour de cette
musique. Et on rappelle, vous pouvez lui écrire.
Et oui, chers auditeurs, bienvenue dans ce courrier des auditeurs numéro 7.
Donc pour lui écrire, pour l'instant, c'est redaction@superenweekend.fr.
Tout à fait, vous pouvez même me Facebooker, me tweeter, me mailer, me tout ce que vous voulez, venir me voir.
Non, tu vas me storifier d'ailleurs, hein, parce que là, avec tout ce qui se passe, il va falloir un jour regrouper tout ça.
On va tout regrouper.
Ouais.
Donc là, j'ai reçu pas mal de courriers, vous n'arrêtez pas de marceler, c'est terrible. Du coup, j'en ai sélectionné, j'ai pris les 3 meilleurs, on va dire, parce que j'ai reçu environ 1 kilo de lettres. Parce que les gens envoient des lettres encore, c'est insupportable.
Même des cartes postales.
Et alors, j'ai même... Oh, non, c'est incroyable, il y a un pigeon voyageur. Mais alors là, j'ai pris un récent de la semaine dernière.
Le problème du pigeon voyageur, c'est qu'il est consigné, il peut pas le manger.
C'est dégueulasse. Bon,
je
Xavier, tu sors. Alors je commence avec ce courrier de Jojo les bons tuyaux qui nous dit « Lors de votre chronique sur Pacific Rim la semaine dernière, j'ai appris que le nom québécois du film était donc « Les rives du Pacifique ». J'ai mené enquête et ces foot québécois n'en étaient pas à leur premier coup d'essai. Donc pour votre culture, je vous ai concocté une petite liste de titres de films à la Caribou dans le Grand Nord. Donc on a par exemple la série 60 secondes chrono qui s'appelle « Parti en 60 secondes ». Très bien. Big Fish, la légende du gros poisson. Pourquoi pas. Clou d'Atlas, on en a parlé il y a quelques semaines, c'est Cartographie des nuages.
Bah oui, c'est
Je console, je crois. Die Hard 4, Retour en Enfer, c'est Vie libre ou crève. Voilà,
bah oui, c'est dit. Life Free or Die Hard.
Voilà, non, mais ils traduisent. Ouais. Moi, chez Méchant, pareil, de l'anglais détestable, moi, donc c'est très très joli aussi. Ocean's Eleven, L'inconnu de Las Vegas. Pourquoi pas. Alors là, il est pas mal, c'est Saut, c'est Décadence. Voilà, comme ça au moins on est. Ouais. Saut, c'est Décadence. Donc t'as Décadence 1, Décadence 2, Décadence 3.
Ah, il y a pas les Saut 6, Saut 7 là-bas par contre.
Non, mais Décadence 6, Décadence 7, tu sais, ça fait penser aux compilations Décadence. C'est de plus en plus pourri.
J'en ai encore, j'ai Scary Movie, c'est film de peur, Speed, c'est Clanche. Alors ça doit être une expression
Clanche.
Ouais,
vas-y,
Clanche.
Clanche.
Point d'exclamation, Clanche. Clanche. Et le plus beau, y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'est L'agent fait la farce. Donc j'ai envie de dire merci, chers amis québécois, de nous faire marrer. Non, mais c'est bien, ils traduisent, ils gardent la langue française.
Non, mais c'est bien, c'est le grand classique de la francisation, enfin de la québécoisisation des titres, mais ça fait, c'est toujours efficace.
Si, c'est ça. Du coup, quoi, si vous allez au Québec et vous entendez Cartographie des nuages, donc c'est Clou d'Atlas.
Enfin, on se moque, mais on apprécie, on adore les flics québécois. Et vous
savez, c'est
vous
qui. Évidemment, sinon je n'aurais pas fait ça.
Et c'est vous qui avez raison de franciser les titres. Et dédicace à MC Gilles qui nous précède sur cette antenne tous les matins avant notre émission.
Donc on dit merci, Jojo les bons tuyaux pour ces bons tuyaux.
Voilà, merci à toi.
Oui, tout à fait.
Alors j'ai reçu un étrange. Alors c'est un message vocal sur mon téléphone, donc je l'ai retranscrit. C'était assez particulier. Donc je vous lis un peu avec le ton que je l'ai écouté. Le Hall's Park étant détruit, nous ne pouvons pas redonner vie à notre planète, mais le destin nous offre sa récompense. Un monde nouveau qui devient le nôtre. Nous vivons parmi ces habitants cachés au nez et à la barbe de tous, mais observant chacun secret patiemment pour les protéger. Là, je me suis dit, le mec est fou. J'ai pu constater à quel point ils peuvent être courageux, et bien que nos deux mondes soient si différents pour eux comme pour nous, il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà, le mec, je me suis dit vraiment, je suis en danger.
Oui.
Moi, Optimus Prime, je me suis mis... Là, j'ai rigolé. J'adresse ce message à tous les Autobots encore en vie, ayant trouvé refuge parmi les étoiles. Nous sommes là, nous attendons. Donc là, j'ai appelé la police, en effet. Donc c'était signé Optimus Prime, robot télécommunication SDF. Donc écoute, si tu as un souci, ne m'appelle plus. Enfin, laisse ton message ailleurs, mais là, moi, je m'en fous.
Je pense qu'il s'est trompé en appuyant sur une touche.
Je pense aussi, voilà.
Tu sais, mec... grosse main, petit...
Ouais, le mec est taré quand même. Donc je retransmets son message du coup maintenant. Donc si vous nous écoutez.
Non mais l'intéressant c'est pas l'intéressant.
Attends, comment
c'est...
ils disent déjà les radios amateurs pour retransmettre station à station, c'est QCR ou un truc comme ça, je sais plus.
Je pense on demandera à Optimus, il a l'air de s'y connaître.
Bon, le primordial c'est pas que tu aies reçu un message d'Optimus Prime, le primordial c'est de savoir où est Megan Fox.
Oui, c'est vrai ça.
Hein?
Hein? Optimus, au lieu de me parler de tes problèmes, tu pourrais me parler de Megan.
Voilà.
Bon, je verrai là, peut-être la semaine prochaine, il m'aura dit
Megan.
Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, j'ai reçu une lettre assez incroyable. Le mec, comme ça, il m'écrit « Bonjour Prisme, j'adore votre émission NSA. Je l'écoute en podcast, c'est depuis la Russie où il fait très espion froid. Je m'ennuie pas mal FBI. Ici, donc, j'essaie de me distraire des IA comme je peux en foutant des mots-clés Obama un peu partout pour faire péter, Verizon, les super calculateurs de mon ancien taf. Ça brouille, Moyen-Orient, les traces. Et comme ça, on peut pas me retrouver. Vous me trouverez jamais, bande de cons, salut. Signé Edward Snowden, 32 rue Sokol, Moscou, Russie. Bon. Ouais, non, mais j'ai vraiment des.
J'ai quelque chose pour toi.
Il est fou ce type.
Ouais, je sais pas, il est incroyable.
Ok, l'interruption musicale, alors dans ce cas-là, est une spéciale dédicace. Bikini Machine qui reprend du tronc. Quand le lecteur sera. Comment ça, NSA qui invalide. Chier.
Ah merde.
Bikini Machine.
Cache tout, on ne dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë? L'aventure est-elle au coin de la rue? On nous cache tout, on ne dit rien. La vérité sur la globale. Quel était son manager? Sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc?
Reprenant du tronc.
Aujourd'hui, nous parlons des insaisissables. Alors, je vais parler du casting après. Alors, le pitch. Les quatre cavaliers sont des magiciens adeptes de détours les plus spectaculaires. Détours de mentalisme, d'illusions avec des lapins, mais surtout cambrioler des banques à distance pour refiler l'argent aux spectateurs, transférer des comptes bancaires en direct ou, voilà, ou faire des sauts d'immeubles en se transformant en billets. Devant l'impuissance des forces de l'ordre, l'enquêteur Dylan Rhodes reprend l'affaire, secondé par une mystérieuse agent d'Interpol. Il y a également un troisième larron, Thaddeus Bradley, grand bourfendeur des magiciens qui vend des DVD où ils dévoilent leurs trucs. Mais surtout, surtout, les magiciens obéissent à des instructions. Un chef qu'ils ne connaissent pas, que nous n'avons jamais vu, juste sa capuche dans le film.
Attention, dans un instant, je vous fais un tour magique. Abracadabra.
J'adore cette programmation. Échapper. Tu vas pas y échapper, j'ai les samples.
Non, voilà, ça c'était le pitch alors.
Voilà, t'as tout cassé là.
Attends, je sors.
Alors Thomas sort un jeu de cartes.
Un jeu de cartes.
Alors, c'est très radiophonique aussi. Alors, c'est un
truc de cartes. C'est con, il ça mâchait tout à l'heure.
Je comprends pas. Je mélange les cartes.
Ah, j'adore ce bruit.
C'est... Je suis en train de mélanger.
Voilà.
Vous allez prendre chacun une carte.
Ok, donc je la garde pour moi.
Oui, ouais. Tu la montres aux autres, tu ne la dis pas à l'antenne, d'accord. Parce que sinon je vais écouter. Dus aussi.
Mmh. Ok, j'ai une super carte. Mmh. T'as quoi
Xavier,
toi
Xavier.
Ah ouais, t'as pas mal. Ouais. Montre. Ok, donc on a tous une carte.
Donc j'ai un jeu de cartes à Marvel, c'est purement anecdotique, c'est le seul jeu de cartes que j'avais chez moi. Donc c'est... Alors maintenant...
Moi je suis avec les super vilains aussi.
Alors maintenant, tu vas remettre ta carte dans le paquet.
D'accord, où je veux.
Oui.
Ok, je mets là. Ok, pour l'instant,
tout va bien.
Ça me semble
du
assez...
Du sport aussi.
Je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas marcher. Je sais pas. Ok. Donc tous les paquets, tous les cartes
là,
sont dans le paquet.
Il le fait, mais un peu trop
et
bien.
Là,
et
il là, je vais mélanger.
Non, il a mis... On voit pas ce qu'il fait, qu'est-ce que tu fais? Il est sous la table, il fait des trucs bizarres.
Et là, j'ai vos cartes. Xavier, c'était celle-là?
Non.
Du sport, c'était celle-là?
Non.
Morgan, c'était celle-là?
Pas du tout.
Eh ben, c'est exactement la même chose que dans le film. Ils font un tour de magie raté.
C'était le plus beau tour que j'ai jamais vu.
Le tour de magie raté du film, c'est prendre un casting en or massif et en faire une bouse. Alors, on prend le casting, alors... Excusez du peu.
C'est parce qu'il l'a vu en VF, c'est pour ça.
Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Mélanie Laurent, Morgan Freeman, Michael Caine, José Garcia, Dave Franco, le frère de James. Donc je suis désolé Morgan, mais...
Mais non, mais justement, c'est bien. Voilà. On va pouvoir un petit peu confronter
donc,
nos idées.
Donc le film, c'est, on va dire, un mix entre Ocean's Eleven et les films de magie. Puisque ce sont des braqueurs magiciens. Casting sous-exploité. Alors, à part, franchement, Woody Harrelson, qui est excellent dedans, c'est le mentaliste.
C'est Woody, quoi.
C'est Woody. En plus, ils utilisent, parce que c'est un ancien magicien qui a été très connu et qui revient, qui a le crâne rasé. Et sur les photos où il était ancien magicien, c'était la coupe de cheveux qu'il avait à l'époque Money Train. Si tu vois un peu la chevelure blonde qu'il avait avec la crinière, voilà. Donc à part lui, les autres ils sont soit en vacances, soit sous-exploités. Donc Jesse Eisenberg, tu vois qu'il a un gros potentiel, c'est quand même Mark Zuckerberg de Social Network.
Ouais,
donc dans le film, tu le vois quasiment pas. Mélanie Laurent, qui est censée interpréter un genre d'Interpol, elle fait une touriste, hein, puisqu'elle passe son temps à faire dodo, à bouquiner, à aller sur le pont de Paris, ou regarder les yeux pleins de petites étoiles, les tours des gens qu'elle est censée quand même arrêter.
Magnifique.
Mark Ruffalo, il fait le très bien le regard de chien battu, mais totalement à la ramasse dans le film, son personnage. Donc, Mark Ruffalo, il fait l'enquêteur. Après, quand tu sais de quoi il est capable, le bonhomme, tu te dis ouais, quand même. Morgan Freeman, or lui, il a pour palper de l'oseille parce qu'on. C'est le personnage. Bon, voilà, t'as son jeu d'acteur qui. Bon, ben on a essayé de reconstituer une partie du casting de The Dark Knight, à mon avis.
C'est ça.
Michael Caine.
Et Zombieland.
Voilà, Michael Caine, quand tu le vois, t'as l'impression de dire « Ah, enfin, le film démarre !» Mais bon, il y a trois répliques dans le film, donc bon, ok.
Ok.
José Garcia, alors ça, c'est très drôle, parce que... bon, ben, forcément, Louis Leterrier, le réalisateur Frenchie, donc il a pris José Garcia, mais il est pas du tout employé pour faire du José Garcia, donc il fait juste la...
Le mec français.
Il s'appelle Étienne Forcier dans le film, d'ailleurs. Oui. Ouais. Voilà, et puis voilà, donc un casting en or massif qui sert à rien... Enfin, tu sors du film, tu dis d'accord, bon ben écoute, on va regarder leur filmo et regarder des films dans lesquels ils sont bons, parce que là voilà, l'intrigue complètement mal foutue, parce qu'il y a un déséquilibre flagrant, puisqu'au départ tu crois que tu vas coller au basque des quatre magiciens. Ils essaient d'essayer de mettre en place une espèce de triangle amoureux entre Harrelson, la nana, dont j'ai oublié le nom et qui sert à rien dans le film, deux répliques, tu la vois en maillot de bain, au milieu de bain, au milieu des piranhas au début. Tu te dis, ah, ça va être la caution sexy du film. Hein, tu elle est là en derrière le rideau en disant, ah, coucou.
C'est l'assistante.
Oui, l'assistante.
C'est ça, c'est cool. Elle fait la diversion. Mais non, mais.
T'as un interrogatoire dans le commissariat qui lance les hostilités entre les flics et les magiciens. Ils ne sont même pas capables de montrer les quatre interrogatoires. Il n'y en a que deux, les plus intéressants de la bande, Jesse Eisenberg et Woody Harrelson. Des extraits déjà que tu vois dans la bande-annonce, parce que donc tu vois à peu près de quelle va être la consistance du truc. Une poursuite en bagnole, normalement une poursuite en bagnole qui, on va un petit peu spoiler, est censée être la mort d'un des quatre héros. Le héros que tu ne vois même pas en insert en gros plan pour dire « Oh là là, mais il va peut-être y passer !» Quand il est dans l'accident, la voiture se crache, la voiture part en flamme.
Tu spoil beaucoup là.
Oui, la voiture part en flamme. Normalement, ces trois amis, normalement, ils doivent avoir, même s'ils sont loin, ils vont avoir une réaction. Non, c'est pas possible, il est mort, non ! On va se venger, non, allez, il faut qu'on continue les instructions, il faut qu'on continue, ouais, on a une mission à accomplir, allez, essuie tes larmes, il faut que... Non, pas de ça du tout, donc forcément, tu te dis que comme il n'y a pas le gros plan du conducteur et qu'il n'y a pas les réactions complètement attristées de ses amis, tu te dis, mais il n'est pas mort.
Mais ils s'en cachent pas, je pense, de cette...
C'était calculé.
Oui, mais s'ils ne s'en cachent pas, pourquoi tu fais une intrigue de film de faux semblants et de... Ah, mais vous croyez avoir vu ça? Mais on vous explique à la fin du film que vous n'avez pas vu ça, en fait. Vous avez vu ça, mais c'était pas ça.
Tout le film est basé là-dessus. C'est la diversion. C'est que tu vas te focaliser sur un personnage pendant que ça se passe ailleurs.
Oui, sauf que la diversion, pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit... Faut que tu y crois dans la diversion. Si tu passes tout le film à ne pas croire à la diversion.
Il y a des faiblesses.
Ah, il y a des faiblesses. La résolution, parce que forcément, c'est le genre de film à fonctionner sur The Revelation à la fin où tu te dis ah, mais c'était lui.
Ouais, là, Ocean's Eleven.
Elle. Ben là, quand tu l'apprends, tu dis ah, mais oui, il est quelle heure? Voilà. Donc, je te laisse. La parole est à la défense, monsieur.
Et c'est ça.
Alors, on a une réaction d'Eddy. Alors, je suis désolé, mais en fait, je sais pas ce qui se passe, mais tout ne remonte pas sur Twitter. Moi, j'ai pas mal de trucs là que je viens de me rendre compte qui ne sont pas remontés dans notre flux. Donc, Eddy demande, est-ce qu'elle est nue au moins, Mélanie?
Pas du tout.
En 3D?
Alors, par contre, ils ont mis une marinière parce que ça fait français.
Alors, par contre, elle a
les rayures.
Elle a un petit. Ouais.
Elle a le petit chemisier de déboutonner de deux boutons juste pour voir ses gros grains de beauté dans le cou. Mais c'est tout.
C'est sa marque de fabrique.
C'est chou.
Et il y a des gros plans sur ses yeux bleus.
Oui.
Ils sont beaux. Mais elle a. Alors, je sais pas. Moi, je l'ai vu en VO, donc je sais pas s'ils ont fait exprès de lui dire écoute, garde ton accent français, mais elle a un accent de patate. Il me semblait que dans Inglourious Basterds, elle parlait mieux anglais. Donc peut-être qu'ils l'ont forcé à exagérer l'accent français.
Tu es d'accord avec moi que son rôle d'agent Interpol, c'est le rôle le moins crédible de l'histoire de l'humanité du cinéma, quand même.
Non, mais il est là pour qu'à un moment, tu te dises « Mais oui, mais c'est elle, en fait. » Et qu'en fait, on ne sait pas, mais c'est pour mettre un doute sur elle.
Oui, mais quand
Parce que l'inspecteur a émis une...
Une réserve.
Voilà,
oui, mais quand tu émets une réserve et que tu te dis « On va multiplier les faux-semblants dans le film, parce que pourquoi pas, il y a des films qui sont complètement du vent, mais tu y crois. » Enfin, tu y crois. On va dire que tu marches là-dedans. En prenant, par exemple, Sex Crimes,
ouais.
Qui est le film, on peut s'en souvenir, que pour autre chose, entre la scène entre Neve Campbell et Denise Richards.
Tout à fait.
On occulte cette scène.
Oui, il y a d'autres scènes.
Hein, oui, il y a d'autres scènes. Donc, Sex Crimes, c'est un film qui est basé sur du vent, où, tour à tour dans le film, tu penses que tous les personnages du casting complet sont des coupables. Bon, c'est fait avec un 33 tonnes, mais pourquoi ils font... Voilà, c'est quand même un film qui a assumé ça. Là, ça fonctionne dessus, mais ça n'assume pas.
Ouais, moi j'ai l'impression que Alors moi quand j'y suis allé, on m'avait beaucoup dit non c'est nul et tout c'est de la merde. Bon, ah, moi la bande annonce m'avait bien plu, du coup je voulais persister, je voulais y aller. Donc je suis allé le voir en me disant bon ça va être un petit navet mais au moins je l'aurais vu, je me ferai mon opinion. Toi t'y es allé en te disant ça va être un super film parce qu'il y a des super acteurs.
Non parce que j'avais déjà vu des critiques négatives mais on va dire que madame voulait beaucoup le voir ouais, aussi, je me suis dit bon allez on va voir.
Disons t'avais une attente supérieure à la mienne.
Oui.
Déjà ça joue beaucoup ça.
Bon déjà je suis d'accord.
Ensuite je l'ai vu en VO et je pense que ça aide beaucoup pour ce film parce que justement ça se passe à la Nouvelle-Orléans, ça parle français énormément, mais oui. La ligne Laurent, bon José Garcia un petit peu parce que ça se passe il y a quelques scènes à Paris. Mais la relation qui se passe entre l'inspecteur et l'inspecteur d'Interpol
et Mark Ruffalo,
voilà du FBI. Je pense qu'en VO, il y a un petit plus, on va dire.
Parce on va dire qu'en VF, tout le monde parle français.
Oui, c'est
et
ça.
Il n'y
a pas
de
l'accent.
Voilà.
Et là, il y a plein de références. Ils disent private joke, English private joke, American joke. Enfin,
oui,
il y a plein de trucs comme
ça. On
le
voit au début aussi en VF. Ouais.
Donc il y a un petit jeu comme ça sur la langue française. On finit sur Paris. Bon, il y a des petites choses. La relation est intéressante. Il y a ça, donc je pense que la VO aide. Et après, voilà, moi je pense que ce film, ils ont...
Attention, tu vas pas me sortir l'excuse
non.
du film d'été, parce que ça ne vaut pas, nous avons parlé d'un excellent film d'été il y a une semaine.
Ouais, je sais. Non, mais pour moi, c'est ça, ils ont fait... à mon avis, ils se sont pas dit en écrivant le scénario, on va faire un truc, vraiment, la Ocean's Eleven, ça va être béton. Non, c'est pour en foutre un peu plein les mirettes. C'est une manière de montrer des tours de magie, on n'en voit pas spécialement, l'idée elle est pas trop mal. C'est vrai qu'il y a des bons acteurs, mais en même temps s'ils avaient pris des acteurs moyens, ça aurait été pire, enfin autant mettre des bons acteurs.
Mais par contre le film il commence sur une belle promesse parce que tu vois
les... Je pense que tu vas rester sur les 4 cavaliers.
Et voilà.
Et je suis d'accord qu'on t'est un peu déçu parce qu'au final tu suis quand même plus l'agent du FBI. Et tu retrouves tes cavaliers à la fin où tout est réexpliqué, etc. Mais ça c'est une facilité d'écriture je pense pour cacher justement tous les subterfuges que tu peux
mettre.
C'est un cache-misère, je suis d'accord avec toi. Du coup, c'est vrai que tu t'y attaches à ces personnages et t'as envie de les voir plus souvent, je suis complètement d'accord
avec
toi.
Parce que le film, quand même, la promesse du film, et ils avaient orchestré le marketing là-dessus, c'est que on s'est entouré de vrais magiciens, des tours qu'on va essayer de duper le public et tout. Au début, certes, tu as à un moment donné, il y a un excellent tour de Heisenberg quand il éclaire la façade du building. Et puis là, c'est aux spectateurs qui s'adresse puisque tout le monde a vu le set de carreaux et c'est le building qui est parce que certainement par un jeu de il apparaît un peu plus de frames que les autres cartes etc. Bon ça d'accord, je me suis dit c'est pas mal, il y a le quatrième rideau qui se lève un peu, d'accord. Ensuite il y a le numérique
quelques tours dévoilés,
franchement le quand ils décrivent le tour, quand ils ont camouflé le coffre avec les jeux de miroir, tout le film aurait dû être comme ça.
Ouais, mais tu le sens arriver, par contre, il y a des choses qui arrivent très vite. Là, je vais pas spoiler, mais on va dire l'intrigue principale du film. Personnellement, j'ai senti le truc à trois quarts du film. Par exemple, le coup du coffre, les tours de magie, tu les devines aussi. Même si t'es content, ils t'apprennent des trucs quand même. Et en fait, pour moi, c'est l'inverse de Transformers. C'est-à-dire que Transformers, tu veux voir des transformations tout le temps, et ils te les donnent tout le temps, donc au final, t'en peux plus. Tellement ça se transforme dans tous les sens que c'est chiant. Ouais. Et là, t'as envie de voir des tours de magie et t'en vois pas tant que ça. Donc c'est un peu, on donne pas au public ce qu'il veut.
Mais en même temps, c'est un film qui veut jouer sur plusieurs tableaux et qui se plante à chaque fois. Parce que c'est pas un film de magie.
Non, pas à chaque fois, mais
c'est un film qui joue sur le sentimentalisme entre l'agent d'Interpol et le FBI. Bon,
en fait, c'est
à peine esquissé.
Parce
qu'à un moment donné, ça va même
pas
dans
le... Moi, je trouvais que ça puait un peu le 2, quoi. Parce que
clairement.
Pour moi, le 1, celui-là, c'est un peu, on vous présente, on met les bases et on va faire une autre histoire avec une autre mission, on va dire. Parce que c'est une sorte de mission, qu'ils ont une quête un peu. Donc je pense qu'il y aura toujours cette équipe des 4 cavaliers et potentiellement une nouvelle mission. Moi, je vois ça comme ça. Donc pour moi, je lui donne sa chance.
Oui, mais par contre, quand il y a un lancement de franchise qui est déguisé parce qu'on sent que c'est pas... Il y a des promesses d'un 2, mais c'est pas assumé en tant que tel, parce que s'il se plante, au moins il existera en tant que film. Mais t'es pas obligé de faire une bande-annonce géante pour un 2 quand tu lances un premier film.
Bah, au final, ça marche parce que je pense qu'il y a eu pas mal de spectateurs, ils remplissent les caisses et ils pourront...
Parce qu'après, le film... qu'est-ce qu'il y a, Zévé ?
Attendez, il y a une idée. Faut rebooter. Il éteint, il rallume. Bon, il va faire du café, moi.
Un peu ça le problème, c'est si jamais il se plante, on refait la rencontre.
Non, mais au final, s'il se plante, ça aura pas détérioré l'image des acteurs.
pour moi.
Bah ouais.
Parce qu'il est pas mauvais ce film. Tu peux le regarder.
Il est sympa. On va dire que l'effet est sympa. Quand tu sors du film, t'as pas.
Ouais,
c'est sympa. Mais par contre, oui, je disais, le film qui joue sur plusieurs tableaux, la romance, elle, c'est pas un film de romance parce que clairement, à un moment donné, c'est un film, c'est aussi un thriller.
Tu te trifouilles pas le cerveau non plus parce que c'est pas hyper compliqué.
La quête avec les quatre magiciens, c'est tellement à la fin, tu dis, au fait, c'était une quête. Donc tu dis, oh là là.
Ouais. Voilà.
Ensuite, le personnage de Morgan Freeman, tu penses qu'il a plein de promesses, mais en fait, il sert à rien.
Ouais, mais ça, c'est parce que toi, personnellement, t'en attendais beaucoup, mais c'est. Voilà,
ouais,
c'est,
mais
ils ont pris des super acteurs pour faire des rôles.
Ouais, mais quand tu installes des pistes dans un film, soit tu en fais une, et le film, il sépare soit du braquage, soit de l'histoire d'amour avec un peu de magie derrière. Et puis après, tu laisses pas sur le carreau tous ces personnages-là.
Après, je suis d'accord que l'histoire d'amour, parce qu'on a toujours une scène un petit peu. Voilà. Elle avait rien à foutre là quoi. Enfin,
ah bah oui.
Elle était pas bien amenée. Enfin,
franchement, le personnage dans les quatre cavaliers, ils ont tellement réussi le personnage de Woody Harrelson que les autres, ils sont juste là pour remplir. La nana, franchement, mais elle sera à rien.
C'est pour ça que je t'ai dit que peut-être.
L'espèce de pickpocket.
Oui.
Il sert à rien non plus parce que tu sens que ça va être le bad boy au début, mais à la fin, l'espèce de baston dans l'hôtel, elle est bien foutue, mais ça n'a rien à faire dans le film. Harrelson, alors là par contre il a plusieurs moments de réplique franchement qui fonctionnent. La scène dans l'ascenseur à la fin quand il lui dit je tenais à te dire que je t'ai trouvé la première fois qu'on s'est vu, je t'ai trouvé con. Et maintenant c'est tout. Voilà,
ouais, c'est tout.
Et vous, dit par Harrelson, c'est vraiment excellent. Mais après franchement le film quand il commence à dire attention le cerveau de l'affaire c'est peut-être la nana, attention c'est peut-être Morgan Freeman,
c'est
parce que je trouve que vous en savez beaucoup sur leur tour, mais à chaque fois que tu commences à dire c'est peut-être lui, c'est abandonné, on va revenir plutôt vers les magiciens.
Oui, mais tout c'est fait exprès. Pour moi, c'est vraiment voulu. Ils disent clairement, regardez là. Mais bon, c'est que ça se passe ailleurs. Mais c'est le truc de la magie. Moi, ils ont basé ce film sur la diversion. Donc tout est basé là-dessus. Et les intrigues. Tout.
Ouais, mais pour faire.
Et au final, t'acceptes de rentrer dans cette idée-là. Et voilà, après, il n'allait pas durer 2h30. Quoi, donc,
Ça, c'est sûr. Mais déjà, il dure 2h et c'est déjà beaucoup.
Non, mais je trouve que. Non, c'est pas beaucoup, ça va. Ouais, ok, c'était juste. Voilà, 2h, c'est bien.
Bon, en fait, le principe de.
On a une demande. Est-ce qu'il y a des robots géants? Est-ce qu'il y a des voitures tunées? Est-ce qu'il y a un homme volant?
Il y a des voitures.
Non, Eddie, il n'y a pas de Man of Steel dans ce film.
Pas besoin de dire qui c'est, voilà.
Voilà, donc il faut juste préciser qu'en VO, le film s'appelle You Now See Me, qui est beaucoup plus porteur que insaisissable.
Ouais.
Québécois,
on a quoi?
Hein? Un Québécois, ouais. Voilà. Bon, voilà, le film, franchement, pour moi, c'est vraiment raté. Si vous voulez un film de braquage, même Ocean's 13 et encore
non,
il est 100 fois meilleur.
Là tu peux pas dire ça, non t'exagères.
Non. Et t'as un côté joueur dans 13 que t'as pas là. Et en matière de film de magie, je ne le répéterai jamais assez, c'est un film qui est injustement sous-estimé et méconnu, même plus méconnu que sous-estimé. Si chaque fois que j'ai parlé de ce film à des gens qui ne l'avaient pas vu, ils m'ont remercié ensuite. Regardez, revoyez, visionnez le film The Prestige de Christopher Nolan.
Oui,
parce qu'en matière de film de magie, c'est vraiment le top du top du top. En plus, il y a Michael Caine également là-dedans.
Mm.
Et Michael Caine dans un film de magie, vous voyez, ça, voilà, ça marche. Il y a Jackman, il y a David Bowie, il y a Andy Serkis, il y a Scarlett Johansson et Christian Bale.
C'est pas au même niveau, on est d'accord.
Le Prestige, regardez Le Prestige. Insaisissable, c'est... Je ne mettrai pas une couche.
Bon, on en a assez dit, mais en tout cas, vous pouvez aimer, moi je vous le dis.
Si vous... Xavier, je t'ai amené un morceau du
Perry Como, Papa Loves Mambo.
Ouais, Papa Loves Mambo.
Ocean's Eleven.
Oh là.
Bien vu.
Yo.
Papa loves Mambo. Mama loves Mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Mama loves Mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, she goes right.
Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo,
mama loves mambo,
mama loves mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause papa loves mambo tonight.
Papa loves mambo, mama loves mambo.
He goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo,
papa loves mambo,
mama loves mambo,
mama loves mambo.
Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow.
Papa loves mambo,
mambo papa,
mama loves mambo,
mambo mama. Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause papa loves the mambo tonight.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent, les héros s'en sortent toujours, et on aime toujours ça, c'est la loi des séries. Ouais.
Bah ouais.
Bah ouais.
Et qui dit série ?
Dit du sport. Non, allez, je déconne. Non, dit non, du sport.
Allez, une petite série de films pour l'été, on va dire.
Ah,
ça sent okay. Bon le sable chaud, là.
On réfléchit pas trop, ou de temps en temps si, quand même, parce qu'on a le temps. Bah, c'est ça, l'été, hein, les vacances. Et on, je pourrais dire en préambule que RTL 9 nous fait une programmation tout à fait intéressante cette semaine, comme vous allez pouvoir le découvrir. Ah, quand même la faute de goût habituelle, mais bon, ça pouvait quand même pas être parfait.
Tu veux dire que ça n'est jamais en VO ?
Non, mais ça, c'est pas le problème, c'est RTL 9, hein, et ça, il faut s'y attendre, mais c'est pas grave. Hein, c'est une série de films qu'on connaît, qu'on a déjà vu, mais de temps en temps, c'est agréable de le revoir comme ça. Quoi, pour dire, ah ouais, je me souviens plus de ce truc, ouais, c'est trop cool. Donc ce soir, sur RTL 9, à 20h45, un film de bras de fer, Over the Top, Menahem Golan, avec Sly, avec Suzanne Blackley, avec Robert Loggia, cool quoi, sympa quoi. Sinon, sur Ciné Plus Famille, à 20h45, Horus, le prince du soleil, de Isao Takahata.
C'est son premier
avec la première participation de Miyazaki, qui était également dans le coup pour ce Horus, prince du soleil, qui est plus ou moins une histoire au départ qui est calquée sur les chevaliers de table ronde, l'histoire de l'épée, Excalibur et tout ça.
Arthur.
Hein, c'est un peu le même genre. Quoi.
Arthur.
Bah, au départ, si, puisqu'il il ressort une épée d'un truc et tout, et puis ça lui permet de... Bon, ok. Bon, ben, laisse tomber. C'est ce soir à 20h45. Sur Ciné Plus Famous, Ciné Plus Club vous propose Bob Roberts, excellent film de Tim Robbins, Alan Rickman, Ray Wise, Giancarlo Esposito, casting de rêve.
Excellent film,
hein, à tous les points de vue. Ciné Plus Classique vous propose Au nom du peuple italien de Dino Risi, qui là, Risi, dans les années 60, il nous avait habitué à faire parmi les meilleurs films drôles italiens de la comédie italienne des années 60 au cinéma. Hein, c'était un des maîtres avec les monstres, avec les nouveaux monstres, avec je me rappelle pas lesquels, enfin bon, il y en a toute une tapée. Et là, il nous fait un film dramatique en 1971 qui s'appelle Au nom du peuple italien, histoire d'un juge qui essaie de pécho un homme politique avec une ambiance genre garde à vue, tu vois.
On est en plein pendant les années de plomb aussi.
Non, les années plomb, ça a débuté après. Hein, les années plomb, c'est. Là, on est en 71, c'est encore cool. On va dire, il y a déjà eu un ou deux attentats avant, mais c'est encore cool. Les années plomb, ça va être en 74, 73, 74. Avec Gassman, Vittorio de son prénom, Hugo Tognazzi et Yvonne Furneaux. Sinon, sur TCM ce soir, il y a un film qui est excellent, film d'aventure, de guerre et tout, comme vous voulez, avec à l'époque le Technicolor qui pétait les yeux à fond les manettes, c'est magnifique. C'est Zulu, le film anglais de Cy Enfield de 1964 avec Stanley Baker, avec Michael Caine, et ça raconte l'histoire en Afrique du Sud, de l'armée anglaise opposée aux tribus Zoulou. Et un épisode plus ou moins fameux de l'armée anglaise, ils étaient 400, en face ils étaient 4000, mais on a quand même résisté, car on est les plus braves et tout. Enfin, bon,
et qu'on avait
le film
suivi.
Est magnifique, c'est vraiment bien, avec un nombre incalculable de figurants, quoi. C'est vraiment un superbe film. Ce soir sur TCM à 20h40, Zoulou. Demain sur RTL9 à 20h45, Un justicier de la ville de Michael Winner, l'original, le Death Switch. Donc, alors, je vous disais ça en préambule à propos de RTL9, parce que d'habitude, ce genre de film, ils te les proposent en deuxième partie de soirée, voire en troisième partie de soirée. Là, c'est première partie de soirée, c'est nettement plus agréable. Sur TF6, si je vous dis on est venu là pour s'éclater, vous me répondez.
Ah là, si, c'est les bronzés.
Non, 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 le degré en dessous, quoi.
En dessous ?
Ouais, ouais.
C'est Max Pécasse.
Voilà, Max Pécasse, donc, sur TF6 qui nous fait une soirée spéciale. Max Pécasse, demain soir à 20h45. Tout d'abord, bon, on est venu là pour s'éclater. Ça, c'est un film de 79 avec Sylvain Green, un des acteurs qui a joué assez longtemps dans ses films, Olivia Dutronc. Et à 22h15, on n'est pas sorti de l'auberge. Toujours du même Max Pécasse en 82, mais là avec quand même un casting plus relevé, on va dire. Jean Lefebvre, Bernadette Lafont, paix à ton âme, et Georges Belair, si, si, Georges
Belair.
Tu te rappelles de Georges Belair?
Il faisait quoi déjà, Georges Belair, George à la Belair.
Bah, il faisait un jeu à un moment donné, quoi. Il a même été sur Canal à un moment donné, me semble-t-il. Quoi.
Ah, il était musicien.
Non, c'était pas lui.
C'était Christian Morin. Non,
c'était Christian Morin. Demain également sur Ciné Plus Classique à 20h45, l'excellent western de Joseph Mankiewicz à 20h45, Le Reptile, avec Kirk Douglas, Henry Fonda, Hugh Cronin et Burgess Meredith. Histoire de trésor qui est caché dans un nid de serpent et tout. Et puis bon, il faut essayer de le pécho. Sur Ciné Plus FX demain soir, Dracula, Prince des Ténèbres de Terence Fisher, le film de 66, la version de 66, donc, avec Christopher Lee, Barbara Shelley, suivi de Dracula, les femmes de Freddy Francis, mais enfin, qui est plus négligeable, on va dire. Et sur OCS Géant, toujours demain soir à 20h40, Alexandre le Grand de Robert Rosen en 56, avec Richard Burton en jupette. Elle l'a fait quand même vachement mieux que Brad Pitt.
Non, mais c'est pas Brad Pitt, Alexandre, c'était Colin Farrell en perruque blonde.
C'est pas grave, c'est ouais. La jupette. On s'en fout d'époque, du personnage. Ah ouais. C'est une histoire de jupette. Non, mais même Kirk Douglas, il est plus crédible.
Mais moi, j'avais bien aimé la version avec Colin Farrell homo, avec qui fricote avec Jared Leto.
Non, mais si tu fais Colin Farrell homo, tu fais ce que tu veux. Enfin.
Non, mais là, je plaisante.
Je veux pas savoir.
Je plaisante. Je
que si tu veux savoir.
Lundi, Arte vous propose une soirée film français avec d'abord La Menace, le film de Corneau en 77 avec Yves Montand, Carole Laure, Marie Dubois, Jean-François Balmer et tout, qui se passe un moment, surtout sur la fin, au Canada, et qui est pas mal du tout, hein, faut le dire, quoi. Suivi des Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. Alors, je sais pas vous, mais bon, de toute façon, je suis sûr que vous l'avez jamais vu, ce film, ça c'est clair, oui. De toute façon.
Si.
Je sais pas vous, moi qui aime bien la comédie musicale quand même, en général, un petit peu, j'ai jamais accroché à ce film, et pourtant j'ai fait beaucoup d'efforts, mais j'ai jamais pu accrocher à ce film.
Mais c'est pas désolé. Vraiment une comédie.
Désolé, désolé. Ouais, mais enfin bon, c'est quand même un film où ils chantent tout le temps. Et où, pour moi, c'est ça la base.
Il y a Eddie qui dit que ta sélection de films, ça fait très réac.
Oui, ah, ça fait très réac. Et ça va continuer avec toujours lundi sur TL9.
On va avoir du courrier.
Après le départ de Steve Guttenberg, eh bien, il ne reste plus que Booba Smith.
C'est la Police Academy.
Dans la Police Academy originale, c'est le numéro 5, débarquement à Miami Beach. Et c'est Matt McCoy qui reprend un petit peu le rôle de Guttenberg dans le film de Alan Meyerson en 88. C'est sur RTL9, lundi à 20h45. Ciné Plus Famille vous propose un excellent film, 3 Oscars quand même, pour Le Voyage Fantastique de Richard Fleischer. Là, Eddie, dans ta gueule. Okay. Avec Raquel Welch, Stephen Boyd, ça Donald Pleasance, Edmond O'Brien. Non, je t'ai plus, le film de 66, magnifique, excellent. Qui se re-regarde toujours avec plaisir. Action vous propose lundi toujours à 20h40 Han Dynasty, l'épopée de Wei Han Tao avec Hu Jun et Wu Qianlin.
Attends, tu peux le refaire là? Attends, je mets le générateur de couilles.
Han Dynasty. Ouais, ça le fait pas tellement quand même, quoi. Bon, ça c'est sur Action lundi, donc un film chinois de 2005. Mardi sur Canal Plus Cinéma, Time Out d'Andrew Niccol avec Justin Timberlake, le mec qui se lance le mieux du monde et tout, après Usher. Et Amanda Seyfried, Cillian Murphy dans le film d'Andrew Niccol.
C'est quoi tes références?
Non, n'as
pas vu. Alors c'est le seul Andrew Niccol que j'ai pas vu avec
Cillian. D'accord. Je te rappelle qu'à l'époque, avant la mort du King, il est jamais passé à la télé, donc il a jamais vu comment il dansait Elvis.
Little Conversation.
Rien à voir. Canal Plus Cinéma Family vous propose à 20h45 Stand By Me, le film de Rob Reiner, parfait film de vacances et tout, bon mélo, enfin vraiment bon film, hein, y a pas de problème, River Phoenix, Will Wheaton et tout. Sinon sur RTL9 mardi prochain, Star Trek 6, Terre Inconnue, de Nicolas Meyer, où il y a plein de Klingons dedans, donc ça peut être sympathique, hein, pour ceux qui l'ont jamais vu. Sur D17, Braquage Infernal de Anthony Jevic, avec Christian Slater, Val Kilmer, Sarah Downing et Balthazar Getty.
Eh ben ouais.
Suivi de The Last Patrol de Sheldon Lettich en 2000, avec Dolph Lundgren et Sherry Alexander. C'est un post-apo où il y a eu un tremblement de terre et puis la Californie a s'est séparée du continent américain, donc c'est une île, et donc Adolf avec son équipe il va être chargé de revenir sur le continent. Tu vois le boulot, quoi, quand même, quoi.
Il ramène l'île en agent, tu vois, il le prend par la peau du cou et puis hop, comme les vrais sauveteurs.
D'accord, la classe.
Sur TF6, soirée, viens dîner chez moi, avec tout d'abord à 20h, où le dîner était presque parfait, si vous voulez, avec à 20h50, Pizzaiolo et Mozzarella de Christian Gion, l'inénarrable Aldo Maccione, suivi de Steak de Quentin Dupieux avec Eric Ramsey, Sébastien Tellier, donc tu vas regarder le film, puisqu'il y a Sébastien Tellier dedans, c'est sûr, et Jonathan Lambert.
Sur quelle chaîne, pardon ?
Sur TF6, hein,
si, je l'ai.
quand même. Ouais. Même les gens qui ont la TNT le long.
Il y a des gens qui ont que la TNT.
Ciné Plus Classique, toujours mardi à 20h45. Alors là, c'est le grand classique du western, celui que tout le monde a vu au moins une fois. Ou si vous ne l'avez pas vu, manque une petite case encore.
C'est
La Chevauchée Fantastique, Stagecoach, le film de 39 de John Ford, avec John Wayne, George Anne Bancroft, John Carradine, enfin bon, ok. Hein, tout le truc de la diligence et tout, quoi. Enfin bon, c'est magnifique, c'est impeccable. Ce film de Sean O'Finney, qui est le vrai nom, hein, de John Ford.
D'accord.
Sinon, toujours mardi à 21h sur FX, il y a Shocker de Wes Craven. Pas mal, sympathique, hein, avec Patrick Berg, non, c'est pas Berg, Peter Berg, voilà, c'est ça.
T'avais marqué P. Berg.
Michael Murphy, Mitch Pileggi, mercredi sur Sci-Fi. Alors mercredi, c'est lamentable, c'est assez lamentable, faut le dire. Sur Sci-Fi, Stonehenge Apocalypse, celui-là, je voulais déjà programmer et tout, hein, le film de Paul Ziller, mais c'est parce qu'il y a Hill Harper dedans, le médecin de CSI Manhattan.
Ouais, Black, mais tu m'excuses, mais il passe trois fois Winfield. Par semaine.
Non, il s'était calmé un moment, c'est pour ça là, il repasse. la boucle reprend, alors donc c'est pour ça. Je vous préviens, c'est mercredi prochain. Ciné Plus Classique vous propose à 20h45 Quelque part dans la nuit de Joseph Mankiewicz, 146, avec John Hodiak, Nancy Guild et Richard Conte, Somewhere in the Night. Hein, c'est le deuxième film de Mankiewicz, hein, qui avait fait Dragonfly auparavant, parce qu'il avait remplacé un certain Ernest Lubitsch qui n'était pas content. Dès le deuxième, il nous sort cet excellent film noir. Et puis, Mankiewicz, tu vois, c'est le mec qui te fait La Comtesse au Pénus, c'est le mec qui te fait Les Aventures de Madame Muir, c'est le mec qui te fait, comme dernier film, un chef-d'œuvre, Le Limier, avec Michael Caine. Alors bon, tu te dis, bon, ok, respect, mon gars. C'est mercredi, donc, sur Ciné Plus Classique, quelque part, dans la nuit. Et en plus, celui-là, il est bien, hein, vraiment, bon atmosphère. Et Richard Conte est un acteur, je répéterai jamais assez souvent, qui est injustement sous-estimé.
C'est bien quand il dit quelque part dans la nuit, tu vois, au cas où la programmation est décalée parce qu'un film a duré un peu plus longtemps que
c'est
prévu.
Ça, tu verras.
Voilà.
Mercredi, toujours, sur FX à 21h, Fragile de Jaume Balagueró, avec son casting international, Calista Flockhart et Gemma Jones. Alors, c'est bien?
Non, ça va.
Bon, ça va.
Bon, il faut aimer les planches à pain, mais...
Oh non.
Oh là 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 là. Je savais qu'il allait passer pour tout.
Non,
il a été obligé de supporter toute la série,
voilà.
Du début jusqu'à la fin, avec madame. Et donc là, bah, il se venge.
Faut que ça sorte,
quoi.
Là.
Lamentablement, quoi. Mercredi toujours, on termine avec du western, du spaghetti italien. Sur Action, une poignée de salopards et de Enzo G. Castellari. Film de guerre avec Bo Swanson et Fred Williamson. Et sur OCS Géant, toujours mercredi prochain à 20h40, Trois pistolets contre César d'Enzo Pieri, qui n'est pas un peplum mais un western, avec Thomas Hunter, donc un type qui a eu peur de honte de son nom et qui s'est pris un pseudo un peu bidon, et Enrico Maria Salerno, lui qui a pas honte de son nom et tout, lui. Vas-y, j'assume, il y a pas de problème, hein, c'est moi Maria
Pizza.
Enrico. Alors on en est à jeudi à présent avec sur France 3, bah, une petite soirée Clint Eastwood et tout, quoi. Bon, ils se sont dit ok, cool, quoi, on les a en magasin, on les passe. Pale Rider d'abord et Magnum Force ensuite, celui de Ted Post avec on le dit, on le dit pas, qui c'est. Non, on le dit pas. Enfin, il y a David Soul dedans. Voilà.
Ah bah oui.
D'accord.
Non, mais oui, non, c'est bon, on a compris, oui.
Voilà.
David Soul.
Ensuite, ouais. Un petit quiz, c'est sur RTL 9, c'est jeudi prochain, 20h45. Alors, c'est avec... C'est un réalisateur hongkongais.
On avait dit qu'on était...
Il y a un acteur français qui fait des câlins quand il y a une certaine température. Il y a une nana qui est un petit peu mutante dedans et il y a un type qui fait le grand écart sur des rails de chemin de fer. Et ça nous donne...
JCVD.
Ça nous donne...
Ah, mais oui, de Ringo Lam, et c'est Risque Maximum.
Voilà.
Oh, très fort. Il est très fort.
Il est très très fort. C'est jeudi prochain sur RTL 9 à 20h45. 13e rue vous propose à 20h45 Commando de l'ombre de Stephen Moder avec Marc Dacascos, Armand Asante et Bruce Boxleitner.
En deux briques.
Sifi nous ressort Camel Spider de Jim Wynorski avec Brian Crozet et Chris Thomas Howell. Alors
Camel Spider. Si, je crois que je l'ai vu.
Si, tu sais, c'est avec des bestioles un petit peu comme dans Starship Troopers.
Ouais, ouais.
Pareil,
oui,
quoi.
Oui,
bon, enfin
oui,
bon, c'est mal fait.
Ça se passe dans le Nouveau Mexique ou je sais plus
ouais,
quoi.
Ouais, ouais,
il y a une tempête de sable. Ce qui fait que donc c'est pour ça que les gens ils sont en vase clos et qu'ils donc ils peuvent pas partir. Enfin bon, c'est nul.
Ouais.
Mais ça se regarde avec des popcorn spaghetti et puis voilà.
Voilà.
Popcorn spaghetti.
Ouais.
Bolognaise ou pas? Non, parce que bolognaise ça change tout, hein.
J'organise une
carbonara,
soirée.
Carbonara, je veux bien, mais bolognaise c'est dégueulasse.
J'organise une soirée quand vous voulez. Allez, ouais. C'est jeudi, sera férié, on se le fait. Chiche.
Ouais, je veux pas essayer.
Le lendemain au bureau, je vais être boum.
C'est ça, tu vas exploser.
Ok, c'est bon alors, Camel Spider.
Ouais.
Jeudi prochain, par contre, il y a quand même quelques bons films sur Ciné Plus Premier, Mise à prix de Joe Carnan avec tout le casting international, mais là, le casting est bien employé, on peut dire, hein, même avec des premiers rôles qui se font dégommer au bout de 10 minutes, un quart d'heure de film, donc c'est toujours appréciable. Hein, ça, puis bon, c'est Joe Carnan, quoi. D'accord.
Puis où il y a Hugh Glory.
Docteur Raoult.
Ouais, je crois pas, non.
Il y a Hugh Glory dans un Joe Carnan, mais je sais pas, je crois que c'est pas celui-là.
Non, c'est pas celui-là, Hein. Celui-là, ça c'est celui où il y avait, il y a également Ben Affleck, enfin bon, il y a toute une typotée de second couteau assez intéressante. Alors, Action vous propose également jeudi prochain La mémoire du tueur, le film belge d'Eric Van Looy, excellent, avec Yann Declerc et Koen de Bouw. Et à vendredi, Sifi vous propose à 20h45 Jurassic Commando de Griff First. Le Griff First, il n'est pas encore aussi connu que Jim Wynorski ou des mecs comme ça qui font que de la série B à la toque, mais il est en train de se faire un nom à mon avis avec ce genre de film. Il y a quand même Michael Gross dedans, Craig Evigan et Christopher Atkins, hein, pour une histoire de commando qui va dans la préhistoire, mais bon, quand ils reviennent, ils ramènent un dinosaure avec eux. ils sont trop cons, quoi. Alors, sur Ciné Plus Club, toujours vendredi prochain à 20h45.
On n'est jamais à l'abri d'un accident bête, alors on sait
alors,
jamais. Hein.
L'incongruité de cette programmation, c'est que ça passe sur Ciné Plus Club, qui est donc censé passer des films, on va dire, intéressants. Alors que là, c'est le Justicier, l'ultime combat d'Alan Goldstein, c'est-à-dire le dernier de la série des Death Wish, qui est une vraie bouse, quoi, un truc innommable, ouais, et ça passe quand même sur série, tu vois, Ciné Plus Club, quoi. Alors que ça pourrait passer sur Ciné Second Couteau, ce que tu veux, quoi. Vendredi prochain, toujours sur Polar, un vieux Sherlock Holmes de la série des Basil Rathbone et Nigel Bruce. Sherlock Holmes, c'est La femme en vert de Roy William Neal en 45, donc en noir et blanc. FX, c'est la soirée...
Western.
Non. Ce dont tu as parlé la semaine dernière.
Et Kaiju Ega.
Kaiju Ega, Gamera, contre Jiger de Noriaki Yusai en 70 avec Tsutomu Takakuwa et Kon Omura. Et là, la bestiole, elle vient pas
des profondeurs marines,
elle vient pas from the outer space. Eh bien, c'est une statue qui se transforme. Oh putain, trop cool quoi.
Énorme.
C'est sur FX vendredi prochain. Action vous propose vendredi prochain Catloud, Sam Wanamaker, un excellent western avec Yul Brynner, Richard Crenna et Leonard Nimoy. Et Océan Géant, c'est mon film pour terminer cet été, quoi, Le Grand Amour de Pierre et Tex, avec Annie Fratellini et Nicole Calfan, entre autres. Et c'est le premier en couleur, hein, d'ailleurs, qui fait Pierre et Tex. Il date de 69. C'est sur Océan Géant, la semaine prochaine à 20h40.
On fait des choses à voir.
J'ai essayé de suivre les fonds sonores, je suis pas arrivé. Je sais pas si vous vous rendez compte le sport que c'est quand même à chaque fois d'essayer de suivre du sport.
C'est du sport, hein.
Ouais, c'est un boulot de fou, un boulot de dingue. Mais ma foi, on a fait une émission qui était.
Vivante.
Ah oui, alors là, franchement, je crois que s'il y en a qui ont loupé ça, ils vont regretter le résumé de Thomas.
Mais il y a le podcast.
Et oui, grâce au podcast, vous pouvez rattraper l'émission et notamment vous pourrez y réécouter dedans une émission donc, qui commençait fort avec. Et non, je peux pas répéter la chronique de The Pro parce que c'est pas possible. Là.
Non, parce que après, si tu veux, quoi, juste après le truc que je t'ai montré, il va sauver. Il va bien sûr sauver l'avion. Hein, c'est-à-dire que bon, il va empêcher que l'avion se casse la gueule. Mais alors, bon, le fait de soutenir l'avion pour qu'il continue à voler et tout, quoi, il faut se rappeler qu'il a toujours le fut sur les chevilles.
Oh.
Et. Le drapeau au vent qui flotte allègrement.
Et
quoi.
Une partie de son partie... qui continue de couler.
Non, pas de couler, mais enfin qui est en pleine forme. Et donc,
par les hublots, il y a l'air, quoi.
Par les hublots, il y a des petits gamins qui regardent. Ils disent, oh, regarde, c'est le Sen qui est en train de nous sauver. Oh
D'accord.
Okay.
Nous avions également du sorcier avec des cornes, des sages mercenaires, du crocodile mutant, des femmes fatales, un dessinateur vectorisé, un tour de magie raté, du garcimor, une baston avec des deuxièmes écrans, une sélection réac, une baston d'imitation d'Elvis, du dolphin post-apo, Eldo Machon, du bras de fer, de la planche à pain, du grand écart et des popcorns.
Et voilà, on a loupé le générique, merci.
Des popcorns spaghetti et un commando chez les dinosaures.
Tiens, prends, lis ça vite fait pour.
Quelle belle émission.
Idée.
Je sais pas. En tout cas, vous nous écoutez sur FMR 89.1 MHz. Nous sommes en alternance avec Buster FM.
Oui.
Et on continue sur www.radio-fmr, sans compter le podcast qui va arriver normalement en cours de journée. Voilà. Vous pouvez réécouter toutes les précédentes émissions, nous écrire, participer au courrier des audilecteurs.
Aller au résumé direct.
Ouais.
Quand t'écoutes le podcast, faut aller au résumé directement.
Voilà.
Comme ça, tu sais à quoi t'attendre un petit peu, tu vois. Et après, tu te refais l'émission.
Mais non, mais t'as le résumé en haut du billet. On essaie de faire un truc sympa.
Y a pas tout.
Sinon, c'est pas drôle. Dans le prochain épisode de mon côté, je pense qu'il y aura de la série française bien foutraque adaptée en bande dessinée.
Oui, je pense aussi. Je pense qu'il y aura également Jason Bourne avec des gros lasers. Il y aura le retour du Bourbon Kid. L'œil du sport commence à briller. Et il y aura également un artbook avec du Christophe Gans dedans.
Effectivement, le gag en double planche est très drôle. Elle est pas mal.
Il est très osé.
Bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez bien évidemment continuer à nous écouter, mais aussi faire part de vos réactions, faire part de vos découvertes, faire part aussi plein d'autres choses. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir quand même.
Tweetez, likez, partagez, kiffez.
Oui, c'est de l'amour.
Écoutez.
C'est de l'amour. Jusqu'où on ira quand même pour avoir de l'audience. C'est honteux, c'est scandaleux. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Vous écoutez FMR sur 89.1, de suite, c'est du sport. Enfin, j'espère, hein. En tout cas, il était en train de noter des trucs dans la dépêche. Donc je pense qu'il y avait des trucs intéressants au point de vue sportif.
Dans la dépêche ?
Oui, sûrement.
Ou l'équipe.
Non, la dépêche. L'équipe, maintenant, il a la chaîne d'info continue.
C'est terrible.
Et attention, ça repart.
Attends.